Hello les amis. Profitons de la musique jusqu'au bout puisqu'on va partir sur quelque chose de plus... J'espère que vous allez bien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Méthode scandaleuse mais nécessaire, s'interroge Lord Tistou dans le chat à l'instant. Effectivement, comment expliquer une revue de presse un dimanche matin? Un dimanche matin. Hein. Mais où sommes-nous? Nous sommes clairement dans un monde où il n'y a plus de règles, de guidelines, de tout s'efface. Pendant 5 ans, je vous ai habitué à une revue de presse en semaine, du lundi au vendredi. Hier, on en a fait une, hier samedi. Donc déjà, on rentre dans... C'est donc ça le multivers, finalement. Et puis tant qu'à faire, allez, dimanche. Voilà. En fait, comme Trump aime à le faire en matière internationale, hein, il explique souvent à ses interlocuteurs qu'il souhaite être imprévisible. Quoi, Trump est en train de déteindre sur moi? Ah non. Serais-je moi-même devenu imprévisible? Non, évidemment que non. Mais voilà. Non, mais arrête de faire des blagues, Samuel. On fait une revue de presse ce dimanche parce qu'il y a une énorme actualité internationale qui est donc ce qui s'est passé au Venezuela, bien sûr. L'attaque lancée par les États-Unis, la capture du président Maduro. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas attendre lundi, tout simplement. Non, s'il déteint sur toi, tu aurais les cheveux oranges, tout va bien. Ok. Donc... Je me suis dit, Samuel, hier on a fait une revue de presse des bonnes nouvelles, parce que c'est un nouveau concept le samedi, on va essayer de collecter les bonnes nouvelles pour essayer de se remonter un petit peu le moral. Mais attendre lundi pour commenter ce qui se passe au Venezuela, non. Non. Hein, c'est un peu pour répondre aux questions de Quentin et d'autres qui écrit à l'instant, merci, parce que là, j'y comprends rien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plein de plein d'articles, plein d'éclairages. Hein. Tu dis capture par arrestation. Bon, on va se pencher sur... Les thèmes, arrestation. Alors j'ignorais qu'un mandat d'arrêt international avait été émis contre le président Maduro, par exemple par la Cour pénale internationale. Donc déjà effectivement le terme arrestation me semble un peu étrange à utiliser. Donc là oui, pour l'instant je suis plutôt sur capture. Mais moi je suis comme vous, je suis quelqu'un qui s'interroge. Hein. Avoir des affiches définitives sur l'actualité, c'est pas tellement intéressant aussi. Pour ça, engagez-vous. Si vous voulez avoir les avis tranchés et définitifs sur les choses, je sais pas, allez militez, engagez-vous, présentez-vous à la présidentielle et allez expliquer aux autres qu'eux ont tort et vous avez raison. Là, on fait autre chose, on essaie de s'interroger et de comprendre les choses. Donc, on va essayer de qualifier effectivement ce qui s'est passé. Je suis pas tellement sur arrestation pour l'instant, mais peut-être que je changerai d'avis au fil de la lecture des journaux. La bonne nouvelle, c'est que je vous ai trouvé plein d'articles. Alors, ce matin, alors, on est dimanche, donc il n'y a pas les journaux que je lis d'habitude. Mais il y a le Parisien Dimanche qui sort tous les jours, y compris le dimanche. Et puis je suis allé sur Internet trouver des articles, pas encore en PDF, en version print papier. On pourra les retrouver à partir de demain. On reparlera de Maduro demain, bien sûr. Mais je vous ai trouvé des articles dans Les Échos, dans Ouest France, dans Libération, sur un site belge qui s'appelle 7 sur 7, dans le Huffington Post, dans Le Monde aussi. En plus du Parisien. Donc on va se pencher là-dessus tranquillement ce matin. Voilà. Voilà le menu. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vois que ça, en tout cas, ça provoque beaucoup d'interrogations chez vous. Hein, c'est plus que de la curiosité. Je sens cette envie de savoir et de comprendre. Et ce que je trouve formidable, d'ailleurs, c'est que on est chacun dans son petit coin, hein, et on pourrait s'en foutre comme de notre première chemise. Et en fait, non, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Hein, ça se passe très très loin de nous. Mais ça soulève beaucoup de questions et vous avez, comme moi, envie de comprendre ce qui se passe et je trouve ça formidable. Merci IUF, il est long ton pseudo, IUFPORMRO, bonne chance pour tes études de journalisme. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci Wilmic pour ce message et ce soutien, merci Majalen, j'espère que je prononce bien, merci pour ton soutien, ainsi qu'à Yann, ainsi que Brigitte, qui avait remarqué que j'avais commencé cette revue de presse par l'écran de fin. Heureusement que tu étais là, Brigitte. Merci pour ton soutien. Merci Lilou, vous savez qui. Merci PLNE Olvi. J'ai du mal ce matin. Le premier café n'a pas encore tellement agi. Mais merci à vous. Perso, je trouve que c'est une énorme dinguerie, donc motivé pour creuser le sujet. Merci Alistair. Bah, c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici, c'est de creuser les choses. Voilà. Alors, chacun a peut-être déjà dans le chat, il y a beaucoup qui s'interrogent, beaucoup qui écrivent par exemple « j'aimerais comprendre, je ne comprends rien ». Il y a déjà certains qui ont des avis sur le sujet, qui peuvent être même très définitifs. On va essayer de se documenter, de s'informer, de s'interroger tous ensemble. Certains verront peut-être leur avis définitif émis au début de ce stream confirmé d'ici 2-3 heures. Waouh, j'arrive dans un instant pour te remercier, mon ami, merci du soutien. Et puis certains vont peut-être mettre un bémol à leur analyse ou se poser des questions qui ne se posaient pas au début de ce stream. J'arrive pour vous remercier, vous êtes des fous là. Oui, en fait, sauf cela de la modération dont tu as été fait l'objet par les modérateurs, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, je vois dans le passé déjà, c'est pas la première fois. Il ne s'agit pas de censurer tes opinions, il s'agit de te dire que, par exemple, pour résoudre un conflit d'idées ou un conflit politique ou une divergence d'analyse, souhaiter la mort de l'interlocuteur, comme tu l'as fait là, tout à l'heure, ou d'une personne, ne nous semble pas la solution idoine. Donc, si à un moment, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu souhaites la mort de l'opposant ou de l'adversaire, quel qu'il soit, ça ne nous emmène pas très très loin. Quoi. Ça nous emmène plutôt niveau guerre du feu australopithèque que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc c'était un petit avertissement, je pense, de pas tellement sur tes opinions, mais sur la manière de les exprimer. Quoi. Puisque tu t'interrogeais sur le pourquoi de la modération de cette décision des modérateurs. Voilà, comme le dit Exutoire, tu peux le dire dans ta tête, mais pas en public. Oui, parce que ça ne nous emmène pas très très loin, en fait. Ici, l'idée, c'est moi, je suis très très à l'aise avec l'expression d'idées très très éloignées de moi. J'aime que les oppositions s'expriment dans cet espace unique qui est le chat. Moi, j'aime beaucoup voir plein d'opinions diverses, si elles sont correctement exprimées, et si elles sont légales. Hein. Mais essayons de partager des choses partageables, quoi. C'est-à-dire des avis définitifs, violents, brutaux, qui n'appellent pas un débat, qui n'appellent pas une réflexion, qui n'appellent pas un échange. En fait, ça peut être intéressant pour vous, ça vous fait peut-être du bien à vous, mais ce n'est pas tellement intéressant pour la communauté, quoi. Merci Etocello pour le 53e mois d'abonnement. Il y a des gens qui soutiennent cette chaîne depuis une cinquantaine de mois. C'est surréaliste. Merci Harmony. Merci Nimela. Merci Bjarn Strup. Pour le 10e mois, merci Brigitte pour les 5 abonnements offerts à la commune. Et merci Kakoupsi qui a offert 10 abonnements à la communauté tout à l'heure. Merci Aztec. Bon, les amis, je crois qu'on va y aller, on va le faire. Il n'y a pas de sommaire ce matin, il n'y a pas de menu à proprement parler puisqu'on ne va parler qu'un d'un seul sujet. On pourrait parler d'autres sujets. Hein. Je pourrais être interpellé par certains dans le chat. On dit, ah, mais tu ne reparles pas de Cran Montana. Cran Montana, c'est une affaire que je suis avec beaucoup d'attention comme vous tous, hein. Je pense en ce moment quand on voit passer un article sur le drame de Cran Montana, on se précipite dessus parce qu'on a envie de comprendre, c'est tellement monstrueux ce qui s'est passé dans cette station suisse. On en a parlé en fin de semaine dernière, on en reparlera lundi bien sûr, la suite, l'enquête notamment sur les responsabilités des deux gérants français d'ailleurs de cet établissement où sont nées toutes ces jeunes personnes, donc où sont décédées toutes ces jeunes personnes, donc on va revenir dessus lundi, mais là aujourd'hui c'est une spéciale Venezuela. Voilà, même le dimanche, c'est les heures sup. Oui, je pense qu'il fallait faire cette revue de presse ce matin. Ça va, Sarah, tu vas bien? Alors, je vois plein de messages très, très pertinents sur le sujet qui nous intéresse. On va commencer. Vous m'excuserez de ne pas lire tous vos messages à l'instant T. En général, je les vois du coin de l'œil, mais je n'interromps pas toujours la lecture des articles pour vous lire. Sinon, bah, après... On fait plein de pas de côté et ça devient un petit peu incompréhensible. Mais je vous lirai bien sûr et je prendrai des moments pour échanger avec vous. Quoi. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais aller baisser le chauffage. Attendez, bougez pas. On va lancer cette revue de presse. J'ai mis un petit coup de chauffage dans le studio parce qu'on a une vague de froid là. Enfin, scientifiquement, c'est pas encore vague de froid. Vague de froid, c'est quand pendant plusieurs jours. Je crois que les températures restent négatives, je sais plus quoi. J'ai vu ça ce matin, mais on a du froid en ce moment sur la France. Ça va, a priori, se poursuivre jusqu'à la fin de semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on y va? Bande de beaux gosses pour cette revue de presse exceptionnelle du dimanche matin. Des revues de presse au dimanche matin, en 5 ans, j'en ai pas fait beaucoup, quoi. Vous êtes prêts? Let's go! J'ai votre feu vert. Toujours prêt? Coucou Noctali. Go! Ok! Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne. Exceptionnellement un dimanche, hein, en 5 ans de stream, j'en ai pas fait beaucoup. Attendez, je vais noter le TC quand même pour mon ami Vincent. Faut que je me l'envoie, ça. Attendez. Vincent qui s'occupe de mettre en ligne cette revue de presse en podcast audio. Donc on est à peu près à combien de streams, tu disais, Sugar, 15 minutes? Ouais, c'est ça, 15 minutes à peu près. Voilà. Vincent qui s'occupe de mettre en ligne en podcast audio tous les jours, quelques heures après, cette revue de presse, qu'on retrouvera, je pense, peut-être en fin de journée, hein, ou peut-être demain matin, voilà, en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Bienvenue donc dans cette revue de presse exceptionnelle, hein, un dimanche matin, consacré à cette actualité qui, à mon avis, ne pouvait pas attendre lundi, même si on va y revenir lundi. Ce qui s'est passé, je suis volontairement flou pour l'instant, parce qu'on va essayer de qualifier cela au Venezuela avec cette opération militaire des États-Unis, hein, cette capture du président Maduro, voilà, qui a été emmenée sur le sol américain. Oui, je suis volontairement extrêmement flou et prudent dans le choix des mots, puisque maintenant on va essayer de qualifier ce qui s'est passé. Certains vont sûrement faire montre d'impatience dans le chat en disant « Ah oui, mais c'est pas une capture, voilà ce que c'est pas une opération militaire, voilà ce que c'est. Voilà. » Bière pour Dieu, j'espère que tu vas bien, parle de coup d'État. On va prendre le temps de collecter toutes les infos, de réfléchir. Voilà, je vois enlèvement dans le chat. Et on va essayer de qualifier cela ensemble. Petit sommaire, je vais vous montrer ce qu'on va faire ce matin. Je vais vous d'abord montrer l'article du Parisien dimanche, puisque le seul journal que je lis le dimanche, c'est Le Parisien dimanche, qui en parle ce matin. Bon, j'étais un peu surpris. J'avoue que j'ai été un peu surpris de la hiérarchie de l'information du journal. Bon, ça arrive. Hein. Attendez, déjà, est-ce qu'on l'a? Le Parisien, si je vous fais ça... Oui, oui, Sugar était surpris aussi. Sugar est comme moi un abonné au Parisien. Ce matin, je me réveille. On fait une grasse matinée. On a bien dormi avec les enfants. Je suis couché tôt, j'ai pas streamé hier soir. God of War m'a beaucoup manqué, mais de temps en temps, il faut prendre du temps pour la famille. Et donc, je me couche tôt, je me lève ce matin, et je me dis, le Parisien va évidemment faire sa une sur le Venezuela. Alors, oui, page 6 et 7, le Parisien en parle. Je vous avoue que je ne m'attendais pas... Salut Pantoufle, tu vas bien? Merci d'être avec nous. Je ne m'attendais pas à cette une sur ce match de Ligue 1, PSG-PFC... Paris vaut bien un derby. Alors oui, c'est historique. Un derby entre deux clubs de football parisien en Ligue 1. Hein, effectivement, c'est la première fois depuis 36 ans. Le Parc des Princes accueille ce soir en Ligue 1 un duel inédit entre deux clubs voisins de la capitale. Une rencontre symbolique qui marque le début d'une nouvelle ère. Oui, oui, j'entends. J'entends pour les supporters des clubs et pour les amateurs de football. C'est un événement. Bon, le journal s'appelle Le Parisien. Le journal s'appelle Le Parisien. C'est un journal intéressant parce que c'est un journal national, Le Parisien, qui est un journal qui est diffusé partout en France, avec d'excellentes pages sur l'actualité nationale et internationale. Mais c'est un journal national qui est aussi un journal local, qui comprend... Alors, c'est pas si lunaire que ça, Davebox. Alors, c'est vrai que si on s'arrête comme ça à la une du Parisien, on se dit « Mais vous êtes des maboules, les gars. Vous êtes des maboules, les gars. » Il y a le Venezuela et vous faites la une sur le PSG, le foot. Alors, pour comprendre le Parisien, il faut se rappeler que c'est aussi un journal local. Le Parisien a des pages d'actualité locale très importantes pour ses lecteurs sur Paris, sur les départements d'Île-de-France. Vous avez des éditions 92, 77, etc. Et donc, en fait, parfois, le côté local peut prendre l'ascendant sur le reste. Voilà. Et là, je pense que c'est le prisme local du Parisien, qui est un journal parisien, voilà, qui, du coup, fait sa une sur... Bon, j'aurais été à la place du Parisien, ce que je ne suis pas... J'aurais fait un gros dossier sur le foot et j'aurais mis Trump fait tomber Maduro, qui est en une d'ailleurs, qui est en une, hein, mais qui n'est pas le principal titre. J'aurais mis ça ici, là, je l'aurais mis un peu plus bas, en plus gros, et puis j'aurais mis le foot un peu plus petit. Mais bon, on est vraiment sur des détails. Alors, effectivement, page 6 et 7, on a deux pages sur ce qui s'est passé au Venezuela. Et on commencera avec ça. Parce qu'on est vraiment sur le factuel, et c'est plutôt intéressant. Ça n'est pas tout. Ce matin, j'ai pris un peu le temps, parce qu'on a moins de journaux le dimanche matin. J'ai pris un petit peu de temps pour aller voir sur Internet si on pouvait trouver des articles de qualité sur ce qui s'est passé. Et j'en ai trouvé beaucoup. Voilà. Donc, par exemple, on ira voir par exemple les Échos. Voilà. Tout à l'heure, je vous le montre, l'article des Échos. Voilà. Un article des Échos qui s'intéresse, qui se penche sur les propos de Trump, sur la légitimation par le président américain de ce qui s'est passé au Venezuela. Hein, la domination américaine, enfin les mots sont incroyablement clairs et violents en même temps. Hein. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais questionnée. La domination, ce sont des mots de Trump. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais questionnée. Ce ne sont pas des mots de journaliste. Ce sont des mots de Trump. Trump pavoise après la capture du camp du président du Venezuela. Donc, on se penchera sur ses propos, sur cette légitimation de cette opération militaire par les États-Unis avec les Échos. Deuxième article, Ouest France. Excellent journal de la presse régionale qui a d'excellentes pages nationales et internationales. Ouest France, historiquement, c'est un journal régional qui a d'excellents articles sur l'actualité internationale. Et là, on a sur les ressorts d'une intervention américaine. Voilà. Comment, pourquoi... Qu'est-ce que c'est que cette accusation de narcotrafic contre le pays, de narcotrafiquant contre le président vénézuélien? Qu'est-ce que ça vaut? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire du pétrole? Puisque même Trump parle très clairement de l'intérêt manifeste de Washington et des pétroliers américains pour le pétrole du Venezuela. Donc, Ouest France se penche un petit peu sur les dessous de tout cela au Venezuela, les ressorts d'une intervention américaine. Excellent article. C'est pas tout. Je vous ai trouvé dans Libération un article qui revient sur l'histoire des relations entre les deux pays. Vous voyez, on essaye de s'interroger. On dépasse un peu le café du commerce et de prendre un petit peu de recul pour comprendre le pourquoi, le comment de la crise politique à la capture de Nicolas Maduro. 10 dates clés pour comprendre le conflit entre le Venezuela et les États-Unis. On va commencer par une date qui est le 14 avril 2013, quand Nicolas Maduro succède à son mentor, Hugo Chavez. Voilà. L'Assemblée constituante, la rupture, 2018, la réélection contestée, etc. Ah ouais, on prend le temps, mais je pense que c'est important de le faire ce matin. Un article sur un site belge qui s'appelle 7 sur 7, que j'ai trouvé intéressant, voilà, sur la réalité de ces accusations. Est-ce que Nicolas Maduro est vraiment un baron de la drogue, comme l'affirme Donald Trump? Je spoil, on n'a pas trop d'éléments pour le dire. Voilà. Un article du Huffington Post, la réaction de Trump, alors ça c'est les réactions, très intéressant aussi. La réaction de Macron, qui est très critiquée par certains, à la capture de Maduro saluée par Trump, étriée en France. Voilà, parce que le président de la République a salué la chute du président vénézuélien sans s'arrêter sur les conditions de sa capture. Pour spoiler un petit peu, quelques mots de Macron. Emmanuel Macron a pris acte samedi de la fin de la dictature Maduro, dont le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir, mais sans un mot sur les conditions de cette chute. Donc ça lui est extrêmement reproché par l'opposition de gauche comme d'extrême droite. Voilà. Donc la réaction de Macron, alors même que le ministre des Affaires étrangères français d'ailleurs dit autre chose. Donc ça c'est un article du Huffington Post. Libération. Des réactions maintenant de la communauté internationale. Capture de Maduro. Libération parle de capture. Hein. La communauté internationale entre larges inquiétudes et lourdes condamnations. Macron et des Européens détonnent. Libération toujours. Ça, c'est un édito. Donc, c'est l'avis d'un journaliste qui s'appelle Jonathan Boucher-Petersen, qu'on a reçu dans l'Hebdo Étienne, sur cette chaîne d'ailleurs, quand on faisait des débats sur l'actualité ici. Voilà. Dont le titre est extrêmement clair. Venezuela, Donald Trump se pose en gendarme, mais il n'est qu'un vorace pyromane. Bastoche, on quitte sa position café du commerce, premier apéro samedi soir. hein, quand tu écris, mais vous êtes vraiment en train de défendre un dictateur qui en plus gère un cartel de drogue, le Tchad, là, tu as toi des preuves comme quoi Maduro était directement impliqué dans un cartel de drogue, tu verras que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Peut-être que tu peux du coup rester un petit peu avec tout pour peut-être lire ces articles. Alors si tu tiens vraiment à crier tes opinions à la face du monde sans chercher forcément un débat, n'hésite pas, il y a le café pour ça. Donc on lira cet édito de Jonathan Boucher-Petersen et on finira avec deux articles du Monde. Voilà. Les réactions de la presse américaine. Vous verrez que la presse américaine est divisée. Vous avez des journaux américains. Ta gueule, on lit headshots. On aime les opinions diverses. Non, mais il faut que ce soit un tout petit peu intelligent en vrai. On lit headshots. La presse américaine est divisée. Vous avez certains journaux qui saluent la décision. L'initiative du président américain, d'autres qui parlent d'une décision absurde, illégale. Voilà. Donc, on verra que même la presse américaine et certains journaux de qualité sont divisés sur le sujet. Après, il y a des Français ici, y compris dans le chat, qui vont dire à ces journaux américains ce qu'il faut en penser. Mais on est habitué. Et un dernier article du Monde, voilà, sur les conséquences sur la Russie. Les conséquences sur la Russie. L'opération américaine au Venezuela. Un événement à double tranchant pour Vladimir Poutine. Alors ça, c'est un des articles les plus intéressants que je trouvais ce matin. Vous voyez, on est déjà au-delà. On est sur les conséquences, notamment du conflit et de la guerre en Ukraine. La capture du président Maduro par les États-Unis. Vous voyez que c'est le mot qui revient le plus souvent dans la presse française, c'est capture quand même. Alors quelqu'un dit, pas bon pour la Russie. Il y a les deux. Il y a un aspect positif et négatif. Alors, quand je dis pour la Russie, pour Poutine d'ailleurs. Poutine n'est pas la Russie et la Russie n'est pas Poutine. Vous savez que les dirigeants ne sont pas leur pays. Hein. Tu ne résumes pas un pays à son dirigeant. Mais ça, tu le sais. Je pense que tu utilises un raccourci. Moi-même, je l'utilise parfois. La France n'est pas Macron. Macron n'est pas la France. Poutine n'est pas la Russie. Russie n'est pas la Poutine. Trump n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas Trump, ce qui est une évidence, mais on le redit. La capture du président Maduro par les États-Unis affaiblit les alliés de l'Ukraine. Affaiblit les alliés de l'Ukraine, qui se veulent les défenseurs de la démocratie et du droit international, avec un Poutine qui va pouvoir dire « Ah ouais, le droit international? Alors moi, j'ai pas le droit d'envahir l'Ukraine? Ok? Mais les États-Unis, eux, ils peuvent intervenir dans n'importe quel pays du monde quand ils le veulent, vous voyez? Donc, ça va affaiblir ce discours. Voilà. Mais, effectivement, c'est aussi un revers géopolitique pour le pouvoir russe, qui perd un partenaire de premier plan et voit ses revenus pétroliers menacés. Voilà, donc je trouve cet article hyper intéressant. Il est pas mal ce sommaire. On a pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? On y va? Ah, par exemple, il y a... Palantir de Sauron qui écrit Poutine a fait la même chose finalement, sauf que son opération spéciale a échoué. On y go? Bon, j'essaie de vous libérer pour 12h30, hein? On part pour 2h? La fin de tout le sport, non. Ah non. Alors, oui, effectivement, j'ai vu que le magazine sportif de France Télévisions, Tout le sport s'arrêtait, j'ai vu les articles ce matin là-dessus. Mais comme tu vois dans le titre de ce stream, hein, exceptionnellement, c'est une spéciale Venezuela. Vous savez que tous les matins. En gros, 9h, midi, 10h, 13h, du lundi au vendredi, je passe en revue toute l'actualité. Ça, on aurait pu parler de tout le sport, par exemple. Mais ce matin, c'est une spéciale Venezuela, parce que je pense que cette actualité ne pouvait pas attendre le lundi. Ok? On y va? On va commencer avec l'article du Parisien. Parisien, qui est un des rares journaux à paraître le dimanche, c'est le Parisien dimanche. Sur, finalement, les faits, les choses les plus basiques, les coulisses d'une attaque éclair. Que s'est-il passé? Après des mois de travail. Des services de renseignement, l'armée américaine a mené samedi, donc, certains m'en parlaient hier après-midi déjà, hein, l'opération Absolute Resolve afin de capturer, a priori ce sont les termes officiels américains, le président vénézuélien Nicolas Maduro. Longtemps dans le viseur de Trump. Ça fait un moment que c'était tendu déjà. Ok. 1h50 du matin, Caracas se réveille samedi au bruit des bombes. La capitale du Venezuela, dirigée par Nicolas Maduro, dont le collimateur de Trump depuis plusieurs mois, est cernée. À travers les fenêtres, les habitants voient des bâtiments enflammés, d'épais nuages de fumée. Le reste de la ville et plongé dans le noir, les bourdonnements des hélicoptères de l'aviation américaine se mêlent au bruit des explosions. On va aussi se pencher sur cette opération militaire, comment elle s'est déroulée, comment elle a été préparée. Ce vacarme dure plus d'une heure, les Caracasiens ne sont pas dupes, habitants de Caracas, après de longues intimidations et menaces de frappe sur le sol, puisque ça fait un moment que le président américain Trump menaçait le régime, on avait parlé d'ailleurs ici, avec aussi des frappes contre des navires dans... soupçonné par les États-Unis de transporter de la drogue. Ça avait créé la polémique à l'époque, puisque les États-Unis avaient été bien en peine de fournir des preuves, d'ailleurs, de est-ce que ces navires transportaient ou pas de la drogue. Bon, ils étaient frappés, point, quoi. On avait parlé de ça déjà ici. Donc, les Caracasiens ne sont pas dupes. Le président américain a fini par passer à l'action. L'inquiétude gagne tous les foyers, les téléphones vibrent sur les tables de chevet, les Vénézuéliens ne savent toujours pas que le destin de leur pays est en train de basculer. Le couperet tombe aux alentours de 4h20, heure locale. Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été capturés et exfiltrés, je vois des guillemets, donc je suppose que ce sont les mots de Washington, vers les États-Unis. Le monde entier n'en croit pas ses yeux. Les chaînes de télévision vénézuéliennes relaient l'information en boucle. Sur l'une d'entre elles, la vice-présidente, qui s'appelle Delcy Rodriguez, dit n'avoir aucune nouvelle de son supérieur et exige une preuve de vie. Voilà. Elle n'arrivera qu'en milieu de journée, lorsque Trump diffuse sur son réseau Truth Social une photo de son homologue menotté des yeux bandés. Arrêtons-nous un instant sur ça. C'est-à-dire que on est sur une opération militaire, tous les yeux de la planète, les yeux de la communauté internationale sont dirigés vers cette actualité-là. On a la vice-présidente du Venezuela qui dit « mais où il est le président ?» Et la réponse ne vient pas de Washington, ne vient pas de la Maison-Blanche, ne vient pas d'un canal officiel. La réponse vient de Trump lui-même directement sur son réseau social, pas un communiqué de la Maison Blanche. Donc, vous aurez l'impression que je m'arrête sur un détail, mais on est sur une information d'intérêt international dont on pourrait penser que, je sais pas, il y a des circuits peut-être pour officiels pour donner une telle information aussi importante. La photo ici dont on parle de Maduro arrêté, et elle est postée par Trump lui-même sur son réseau social, à lui. Donc, elle n'arrivera qu'en milieu de journée lorsque Trump diffuse sur son réseau Truth Social une photo de son homologue menotté et les yeux bandés. C'est cette photo. J'ai vu sur Internet que la référence de ce survêtement Nike, je crois, avait été cherchée par des milliers d'internautes, voilà, et que les ventes seraient en train d'exploser. On vit une drôle d'époque, quand même. Le Venezuela se réveille donc sans son président, dont l'élection en 2024 n'avait pas été reconnue par de nombreux pays occidentaux. Trump, lui, jubile. La planète a les yeux rivés sur son opération éclair. Devant les journalistes venus en nombre à Mar-a-Lago, Floride, voilà, il vante un assaut comme on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. On va revenir sur le comportement de Trump dans les dernières heures et les mots qu'il utilise, mais encore une fois, c'est quand même un président très particulier. L'information, il la poste, c'est pas un communiqué de la Maison Blanche, c'est sur son réseau social, voilà, avec son réseau à lui. Et là, la déclaration de Trump, elle n'est pas depuis la Maison Blanche, c'est depuis son domicile perso de Mar-a-Lago en Floride, voilà, pas très loin de son golf, si je dis pas de bêtises. Devant un journaliste venu en nombre à Mar-a-Lago, en Floride, il vante un assaut comme on n'a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les questions sur le droit international, on s'est habitué, mais encore faut-il rappeler que c'est quand même un peu étrange tout ça. Les questions sur le droit international, mentionnées par la France et l'ONU dans leur réaction officielle, ne l'intéressent pas. Donald Trump fait son show, assurant avoir suivi en direct la capture de Maduro comme une émission télévisée. Ce sont ses mots à lui. Comme une émission télévisée. Arsenic me dit qu'il s'était retiré pour les vacances de fin d'année. Moi, ce que je trouverais digne dans un tel contexte, on est quand même sur une situation extrêmement grave, c'est que pour faire une annonce comme ça, tu retournes à la Maison Blanche, quoi. Parfois, les symboles sont importants, quoi. Tu le fais pas à 10 mètres de ton golf. Je dis ça, je dis rien. Je pense qu'en termes d'avion personnel ou aux frais de l'État américain, je pense qu'il a de quoi se déplacer quand même. Les questions sur le droit international, parlons-en, c'est important, ne l'intéressent pas. Trump fait son show, assurant avoir suivi en direct la capture de Maduro comme une émission télévisée. Après avoir fait du bureau ovale un plateau de télé-réalité au fur et à mesure de son mandat, alternant les clashs, les réconciliations, notamment avec Volodymyr Zelensky, le président américain fait désormais de ses opérations militaires une série Netflix. Cet épisode-là s'intitule Absolute Resolve pour détermination absolue, nom donné à cette mission lancée contre le chef d'État vénézuélien. Alors justement, on va se pencher dans le détail sur cette opération militaire. Après des mois de travail des services de renseignement américains sur les moindres faits et gestes de Maduro, Trump a décidé de donner le go à 22h46, vendredi soir, heure de Washington. La mission aurait pu être lancée 4 jours plus tôt, mais a dû être décalée à cause d'une mauvaise météo. Au total, ce sont près de 150 hélicoptères, avions, bombardiers, drones ou encore appareils de renseignement qui ont été impliqués dans cette opération. Ce sont les informations qui ont été données par le chef d'état-major. Une fois arrivés à quelques encablures des côtes vénézuéliennes, ces appareils se sont mis à voler à très basse altitude, à moins de 50 mètres de l'eau. Aux alentours de 1h50 du samedi matin, la première explosion retentit, puis deux, puis trois, puis quatre. La mer américaine vient de démanteler les systèmes de défense aérienne du Venezuela. L'effet de surprise est total. Caracas est plongée dans le noir complet. C'est une stratégie de diversion qui peut être extrêmement efficace, note Guillaume Ancel. Dans une atmosphère chaotique, les hélicoptères en profitent pour se rapprocher du sol et de leur objectif, à savoir Maduro. Ce dernier, acculé depuis des semaines face à la pression américaine, avait sans doute senti le vent tourner. Trump assure qu'il se trouvait dans une forteresse, sans pour autant donner l'adresse. Le palais de Miraflores est le lieu de résidence officielle des présidents du Venezuela en période normale, ce qui n'était pas le cas en ce moment, explique un chercheur. En situation tendue, les chefs d'État résident dans une base ou un fort militaire. On ne sait pas précisément, a priori, où il était, quoi. Il est 2h02 du matin quand les forces américaines posent pied sur terre et tentent d'appréhender Maduro et sa femme. Leur sécurité rapprochée tente de riposter et tire quelques balles sur un hélicoptère. C'est surréaliste. D'un côté, vous avez 150 hélicoptères, avions, bombardiers, drones, et on apprend que la réaction du Venezuela, ça a été de tirer quelques balles contre un hélicoptère, quoi. Pas suffisant pour repousser l'assaut, le couple présidentiel tente alors un ultime coup de poker, essaie de se réfugier dans un bunker. En vain, face à l'arrivée des troupes terrestres américaines, ils finissent par se rendre. Voilà. Une fois exfiltrés, ils ont été placés, ça c'est les informations dont on dispose, sur le navire USS Iwo Jima de la flotte maritime américaine. Ils prennent la direction de New York, où le président vénézuélien sera jugé, entre autres, pour complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme. Tu me poses la question, Neo Passenger, est-ce qu'on connaît le nombre de victimes? Je ne l'ai pas, mais c'est une information importante. Est-ce qu'il y a des victimes, notamment civiles, de cette opération militaire américaine? Du côté du Venezuela, on dit qu'effectivement il y a des bâtiments civils qui auraient été touchés. Donc c'est une question qu'il faut se poser, bien sûr, tu as raison. Donc, où il sera jugé, entre autres, pour complot en vue de commettre des actes de narcoterrorisme, on se penchera sur ces accusations ce matin. Que valent ces accusations de narcoterrorisme contre le président Maduro? Parce que c'est de lui dont il est question. C'est un sujet qu'on abordera ce matin. Qu'est-ce que ça vaut? En attendant, Trump jure que les États-Unis géreront le Venezuela tant qu'il n'y aura pas de transition. Je pense que là aussi, il faut s'arrêter un instant sur cette phrase. Les États-Unis vont gérer le Venezuela. Voilà. En attendant la transition. Quelle transition? On le verra un peu plus loin, une transition gérée par les États-Unis aussi. Ce samedi matin, les rues de Caracas restent désespérément vides. La population demeure dans l'incertitude et observe par la fenêtre l'arrivée des colectivos, les groupes armés créés par l'ancien président Hugo Chavez pour protéger le gouvernement ainsi que de l'armée. Je ne sortirai pas de chez moi tant que la situation n'est pas calmée, que l'avenir du pays n'a pas été défini, indique un jeune homme qui se rappelle la violente répression des manifestations qui ont suivi la présidentielle de 2024 et craint une situation similaire. Voilà. On a, dans la deuxième page de ce dossier consacré ce matin par Le Parisien à ce qui s'est passé au Venezuela, un deuxième article qui est une interview d'un chercheur spécialiste de l'Amérique latine, qui s'appelle Christophe Ventura, et qui dit quoi ? Le Parisien écrit ce matin, par cette opération, les États-Unis continuent de démontrer leur hégémonie. Voilà, Mister Pixar écrit les États-Unis, les rois du monde, point d'exclamation. Continuent de démontrer leur hégémonie face à l'impuissance de la communauté internationale, parce que ce qui se passe au Venezuela, vous l'avez tous compris, dépasse très largement les frontières du Venezuela et interroge le droit international et interroge toute la communauté internationale et interroge le rapport des États-Unis à l'international. Une partie des électeurs MAGA, des électeurs américains qui ont voté pour Trump, espéraient un président très peu interventionniste, reprochant les guerres dans lesquelles notamment Biden se serait impliqué, en expliquant voter pour Trump parce que lui, justement, c'est un président qui n'a à s'occuper que du territoire américain. Hein. Bon, bah, on est quand même très, très, très loin de cet espoir de ces électeurs MAGA, quoi. Les États-Unis continuent de démontrer leur hégémonie face à l'impuissance de la communauté internationale, estime donc Christophe Ventura, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques qu'on appelle l'IRIS. Question du Parisien. Est-ce qu'un nouveau cap a été franchi par les États-Unis ? Une ligne a été dépassée. Il n'y a aucun doute, cet épisode marque un changement de nature de l'intervention américaine au Venezuela et peut-être dans la région. Au-delà du côté spectaculaire, sidérant, c'est la mise en œuvre d'un scénario qui était sur la table depuis des mois, qui se mettait en place dans le silence assourdissant des chancelleries internationales, notamment européennes. Aujourd'hui, la mâchoire se referme. C'est une violation flagrante du droit international, simple à caractériser. Donald Trump utilise la force. Je reviens un instant sur les mots que je viens de prononcer parce que parfois je vais trop vite. C'est une violation flagrante du droit international, simple à caractériser, dit ce chercheur français. Donald Trump utilise la force pour régler un différend. C'est une agression militaire, c'est une violation de l'intégrité territoriale du pays. Alors parfois, il faut ralentir un petit peu sur les mots. Si des zones résidentielles ont réellement été frappées, comme l'indique le Venezuela, alors c'est un facteur aggravant du point de vue du droit international. Quelle réaction peut-on attendre de la communauté internationale ? Pas mal cette interview. L'Organisation des Nations Unies est incapable de gérer ces conflits. Il ne peut y avoir aucun consensus possible avec la présence des États-Unis au Conseil de sécurité. Beaucoup de chancelleries qui devraient travailler à rétablir le droit international, encore une fois piétinées par Trump, n'osent pas s'opposer à Washington. Leur réaction aujourd'hui, c'est plutôt de faire profil bas. Question du Parisien. Nicolas Maduro n'est pas assez populaire pour déclencher une vague d'opposition. Ses alliés, la Chine et la Russie, vont protester, mais ont peut-être des priorités plus importantes à gérer, comme l'Ukraine et Taïwan. Le chercheur répond, mais que faire contre Trump ? Personne ne peut se mettre en travers de sa route. Quel pays peut aujourd'hui se permettre ainsi un rapt ? Cette manière de concevoir le monde est porteuse du plus grand désordre, de la violence généralisée. Question du Parisien. Quel moyen de riposte peut déployer le Venezuela ? Pour le moment, la réponse semble être d'activer un dispositif de défense du territoire terrestre pour une guerre de défense. Le pays n'a ni la tradition ni les moyens d'attaquer, mais il se prépare à une forme d'invasion ou d'occupation par la force américaine, puisque Trump a déclaré tout à l'heure, on l'a vu, un rapt, c'est un enlèvement, Criseo. Que les États-Unis allaient gérer le Venezuela. Voilà. Donc, le pays se prépare à une forme d'invasion ou d'occupation par la force américaine. Comment le Venezuela pourrait riposter contre la plus grande armée du monde ? Merci, Bien-être. Je remercie aucun sub. Bien-être, Elixup, Neltiz, Magic Box, Citadis, Nelling, Nyandra, Etocelo, Nimela. Excusez-moi, merci pour les soutiens. Comment le Venezuela pourrait riposter contre la plus grande armée du monde ? C'est impossible. Un trou béant sépare les deux pays en termes militaires et technologiques. Le Venezuela va aussi tenter d'activer les leviers au niveau de la communauté internationale, mais cela risque d'être assez vain. Cette crise est la confirmation de l'incapacité des institutions internationales, surtout de l'ONU, à régler les conflits politiques aujourd'hui, si je peux me permettre. On l'a vu aussi avec le Proche-Orient et avec la Palestine. Tsetset Tsubasa, merci à toi. Question essentielle dans cette actualité, posée par le Parisien. Quels sont les intérêts politiques et économiques de cette intervention pour Donald Trump ? Merci Noob Jabs pour les 5 abonnements offerts à la commu. Réponse du chercheur. Il est clair que les ressources énergétiques du Venezuela sont un élément important de l'équation. Merci Charline. Ce n'est pas sa seule motivation, mais Trump veut mettre la main sur le pétrole et mettre en place un régime plus conciliant avec les intérêts américains. Ces 25 dernières années, le pays s'est éloigné de Washington au profit de Moscou et de Pékin. La première puissance mondiale réaffirme son statut, c'est aussi ce que Trump recherche dans une logique d'empire. Merci Sto83. Et à l'instant, King Marie dans le chat écrit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Que peut-on attendre au Venezuela ? Demande le Parisien au chercheur. Cela promet une perte de désordre. Maduro dispose d'une popularité limitée dans le pays. L'opposition est divisée. Aucun leadership ne s'impose par ailleurs. La majorité des Vénézuéliens n'ont plus confiance en leurs dirigeants. Ils sont fatigués par la crise qui dure depuis plus de 10 ans. Hein, puisqu'il y avait un embargo américain sur le pétrole vénézuélien, si je ne dis pas de bêtises. Quelqu'un me dit, c'est Marie-Christine, et elle a raison, que le Venezuela a parmi les plus grandes réserves de pétrole de la planète. C'est une vraie information. On peut s'attendre à une prise de pouvoir par les militaires avec une dynamique de fermeture du pays, de raidissement du pouvoir, d'une forte répression. L'autre hypothèse, c'est qu'une faction au sein de l'armée fasse un coup d'État pour mettre en place un pouvoir plus en phase avec les États-Unis. Que peut-il advenir du couple présidentiel ? Alors le couple présidentiel vénézuélien, hein, pas américain bien sûr. Les Américains sont capables de tout, rappelle le chercheur. Manuel Noriega, l'ancien président du Panama, fait l'objet d'une opération militaire de ce type en 89. Noriega, ancien président du Panama, il a pourri en prison. Pour le coup, Noriega, alors c'est vieux, hein, 89, mais alors ses relations avec le narcotrafic, je crois, pour le coup, étaient vraiment avérées. Hein, pour le coup, hein. C'est un peu lointain dans ma tête, mais alors qu'il y a les vraies interrogations sur Maduro. Maduro est poursuivi par la justice américaine pour narcotrafic. On pourrait imaginer effectivement que se tienne également un procès. Voilà pour cette petite analyse de ce chercheur. Et vous avez un premier article, mais on en lira d'autres, sur les réactions en France, en Europe et à travers le monde. Je vous lis ce premier article, mais on va vraiment prendre le temps de voir les réactions. La réaction du président Macron, notamment, a provoqué elle-même beaucoup de réactions. Article dans le Parisien signé Alexandre Sulzer. L'opération américaine a divisé la classe politique française. Salut, fut-on furieux. Celle-ci allant de la dénonciation absolue de la capture, essentiellement à gauche, et un soutien franc, quoique plus isolé. Premier à se faire entendre, Jean-Luc Mélenchon a toujours défendu le pouvoir bolivarien de Caracas. Alors là aussi, j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours, mais je crois que Mélenchon était un soutien du président vénézuélien précédent, notamment Hugo Chavez, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et il dénonce une violation de la souveraineté du pays avec une intervention militaire d'un autre âge et un enlèvement odieux. Hein, c'est ça, hein, c'était un soutien. À gauche, le PS a rappelé que quoi qu'on pense de Maduro, selon les mots d'Olivier Faure, la force ne peut pas remplacer le droit. Il aura fallu 19h30 pour avoir une expression d'Emmanuel Macron, qui a attendu d'avoir échangé avec Trump et les présidents Lula et Milei, donc brésilien et argentin, se gardant bien de critiquer les États-Unis. Il a pris acte de l'intervention américaine selon son entourage. Le chef de l'État a estimé sur X que le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir de la fin de la dictature de Maduro et appeler à une transition démocratique. Ce qu'il reprochait à Macron aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas critiqué l'opération militaire en tant que telle. Quoi. Plutôt, pourtant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lui, était monté au créneau pour dénoncer l'intervention américaine. Alors ça, c'est intéressant, puisque vous avez un ministre français des Affaires étrangères qui est critique sur cette opération, alors que le président, lui, ne l'est pas officiellement. Jean-Noël Barrot déclare, en confisquant le pouvoir au peuple vénézuélien, en le privant de ses libertés fondamentales, Maduro a porté une atteinte grave à sa dignité et à son droit à l'autodétermination. Voilà. Donc ça, c'est ce que dit le ministre français des Affaires étrangères. Mais l'opération américaine contrevient au principe du non-recours à la force qui fonde le droit international, écrit le ministre, selon lequel aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur. C'est intéressant, on est dans l'exécutif français avec deux positions, celle du président et du ministre français des Affaires étrangères, qui sont pas du tout alignées. Quoi. À moins que le président Macron soit dans une immense prudence dans le choix de ses propos, pour ne pas froisser le président Trump, mais dans ce cas-là, ça soulèverait plein de questions également. Gabriel Attal, donc c'est le président de Renaissance, voit une... Alors on va aller voir son tweet carrément, Gabriel Attal, parce que moi je l'ai lu hier soir et je l'ai trouvé intéressant. Gabriel Attal, donc le président de Renaissance, voit une forme d'hypocrisie derrière les atermoiements à réagir, les déclarations de façade, les condamnations sans effet. Donc Gabriel Attal, lui, se moque de ceux qui condamnent un peu. Hein, il parle de déclarations de façade, de condamnations sans effet. On ira voir son tweet d'ailleurs. On va aller voir son tweet là. Ce qui importe le plus pour les jours et les mois à venir, c'est que ce soit la liberté du peuple vénézuélien qui prime et non les intérêts économiques et pétroliers des États-Unis, dit-il. C'est quoi ? On va aller le voir d'ailleurs. Twitter. Le réseau du chétan. Alors, Gabriel Attal. Ok. Voilà. Ah, effectivement, le président... Donc, le président du parti Renaissance dénonce l'hypocrisie derrière les atermoiements à réagir, les déclarations de façade, les condamnations sans effet. Il se moque un petit peu de ceux qui condamnent l'opération. Il explique Nicolas Maduro est un dictateur qui a opprimé son peuple et ruiné son pays contre les aspirations des Vénézuéliens à vivre libre. Voilà. Alors je le dis sans embâche, je ne regrette pas son départ. Ce qui importe le plus pour les jours et les mois à venir, c'est que ce soit la liberté du peuple vénézuélien qui prime, on le disait à l'instant. Mais c'est la suite qui est aussi très intéressante. Regardons cliniquement les choses, ces événements sont surtout un signe supplémentaire que le monde est désormais régi par la force. C'est-à-dire Gabriel Attal, il fait ce constat. Ces événements sont surtout un signe supplémentaire que le monde est désormais régi par la force. Dans ce monde dangereux et violent, les Européens ont évidemment des valeurs à défendre. Mais ils le font aujourd'hui en spectateurs impuissants du délitement de toute forme de règles et trop souvent en défenseurs béats d'institutions désormais totalement dépassées. Se contenter d'être les derniers à défendre et respecter la Charte des Nations Unies ou encore les règles de l'OMC quand il s'agit du commerce international sont très cohérents avec notre histoire et fidèles à notre doctrine. En gros, il dit, c'est bien que les Européens aient des principes, mais c'est surtout être complètement effacé à ces responsables européens et français pétris de bonnes intentions. Le respect du droit international, le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Hein, je le dis clairement, hélas, nous n'avons plus les moyens de ces indignations. Il y a un côté très réel politique, quoi. Le monde, les grandes puissances ne nous attendent pas, ni à Washington, ni même à Pékin. Cela peut et doit changer. Pour cela, même les démocraties doivent retrouver la voie de la force, si elles veulent continuer d'espérer que le droit prévale de nouveau. Et pour la France, la force est notre capacité militaire à renforcer plus que jamais, notre refus de nous laisser effacer, et c'est l'Europe seule à même d'hisser notre continent à la hauteur des défis qui viennent. Voilà. Donc Gabriel Attal lui dit, bon les gars, au vu de la nouvelle donne internationale, les gars, il nous faut une armée super puissante, quoi. Et je suis allé voir les réactions, plein de réactions à ce tweet de M. Attal, et j'ai notamment vu celui-ci. Le pseudo est très drôle. Thierry Braillard, j'espère que c'est un pseudo, que c'est pas un vrai patronyme. Thierry Braillard, position très dangereuse qui s'affranchit du droit parce qu'il roule à 180 km/h et qu'il va plus vite que moi. Qui respecte le règlement et la limitation à 80 km/h, je dois accélérer au péril de ma stabilité, du respect du droit, et un jour il y en a un qui roulera à 200 km/h. Voilà. Monsieur Thierry Braillard, je salue le pseudo, dit ok, donc parce qu'il y a un gars qui ne soutient pas le droit international et les règles du commerce international de l'OMC, ce gars c'est Trump, eh bien en gros il faut faire comme lui. Voilà. Et en fait les bonnes intentions, le respect du droit international notamment, bon, on va se mettre un mouchoir on va te mettre dans notre poche avec un gros mouchoir dessus, quoi. Voilà. Et puis notamment puisque ce monde n'entend que le discours de la force, il faut que la France ait c'est pas un pseudo, ah c'est un vrai nom, ok d'accord. Bah c'est un très beau patronyme. Il faut que la France ait une armée forte. Voilà. Donc ça c'est le tweet de Attal. Je reviens à l'article du Parisien. Le président de LR, Bruno Retailleau, que dit-il? Merci Dualbots. Merci à Zorg. Dénonce-lui le narcotrafic dévastateur qui mène une guerre hybride et silencieuse contre nos sociétés. Bon, on verra que c'est un peu la question du narcotrafic. À propos du Venezuela, il y a beaucoup d'experts qui la remettent un peu en question, quoi. La souveraineté du peuple vénézuélien demeure sacrée. Bon. Prend toutefois soin de préciser l'ancien ministre de l'Intérieur, demandant que les Vénézuéliens puissent décider librement de leur avenir sans une ingérence unilatérale. Thierry Braillard, ancien député et avocat lyonnais. Donc c'est pas un pseudo, c'est Braillard. Ok. Ok, ok. Merci beaucoup. Le renversement extérieur d'un gouvernement. Oh, c'est Bardella, Jordan Bardella. Réaction de Jordan Bardella. Peut-être futur candidat à la présidentielle en France. Le renversement extérieur d'un gouvernement par la force ne saurait constituer une réponse acceptable, a pointé quant à lui Jordan Bardella, tout en prenant soin de rappeler que le régime rouge de Maduro appelle de nombreuses critiques légitimes sur le plan démocratique. Un chemin de crête délicat pour le leader d'une formation traditionnellement opposée à l'intervention militaire, et tout particulièrement américain, mais qui disait le 17 décembre sur LCI respecter Trump pour sa capacité à défendre les intérêts américains. J'ai cru voir une réaction de Marine Le Pen, qui est assez critique sur cette opération américaine. Je vais voir. Je vais voir si je me suis trompé ou pas. Marine Le Pen. Il existait 1000 raisons de condamner le régime de Maduro. Communiste, oligarchique, autoritaire, il faisait peser sur son peuple depuis de trop longues années une chape de plomb qui a plongé des millions de Vénézuéliens dans la misère quand il ne les contraignait pas à l'exil. Mais il existe une raison fondamentale pour s'opposer au changement de régime que les États-Unis viennent de provoquer au Venezuela. Donc on a une position de Marine Le Pen que je trouve beaucoup plus tranchée que celle de Bardella. D'ailleurs, les deux ne sont pas d'accord sur tout. Hein. Mais on y reviendra plus tard, ça. Dans l'année, je veux dire. Notamment dans la perspective de la présidentielle. La souveraineté des États-Unis n'est jamais négociable. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance, quel que soit leur continent, elle est inviolable et sacrée. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude. Ce serait donc un péril mortel, alors que le XXIe siècle est déjà le théâtre de bouleversements géopolitiques majeurs qui font planer sur l'humanité le risque permanent de la guerre et du chaos. Il ne nous reste plus qu'à espérer face à cette situation que la parole soit rendue au plus tôt au peuple vénézuélien. C'est à lui que doit revenir le pouvoir de définir souverainement et librement le futur qu'il souhaite se donner en tant que nation. J'ai un autre tweet qui m'a intéressé, qui est celui de Dominique de Villepin, dont la parole sur les questions internationales, on se souvient de sa tribune à l'ONU sur la guerre en Irak, si je ne dis pas de bêtises, est toujours suivie. Dominique de Villepin. Je l'ai vu passer, ça. Dominique de Villepin. L'opération militaire américaine en cours contre le Venezuela est un basculement géopolitique majeur. Les États-Unis se mettent volontairement et indiscutablement hors du droit international en violant la charte et l'esprit des Nations Unies. C'est un acte lourd de conséquences pour l'ordre international issu de la Seconde Guerre mondiale. C'est la légitimation des changements de régime par la force. Aussi détestables soient les gouvernements renversés, les précédents montrent que les changements de régime ne mènent ni à la démocratie, ni à la paix, mais au chaos, à la guerre civile et à la dictature. Qu'on se réfère à la situation de l'Irak ou de la Libye. C'est la légitimation des sphères d'influence impériale au nom du corollaire Trump de la doctrine Monroe, dont on va parler ce matin. J'ai l'impression que cette revue de presse, on pourrait la faire jusqu'à 20h ce soir, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. L'objectif à peine voilé de la politique de la canonnière reste l'imposition d'un ordre idéologique conforme aux visions de Trump dans toute l'Amérique latine. Dès lors que les États-Unis s'affranchissent de la légalité, que dirons-nous à la Chine si elle renverse un régime qui lui déplaît, en Corée, au Vietnam, ou à plus forte raison à Taïwan? Quel argument aurons-nous à opposer à la Russie si elle renverse un gouvernement qui lui déplaît en Moldavie, voire dans les pays baltes? La France et l'Europe doivent clairement réaffirmer avec les pays du Sud, global, leur attachement au principe du droit international, et d'abord la souveraineté des États et de la sécurité collective, et défendre l'ordre juridique des nations, des États-nations contre la collusion brutale des empires. Voilà pour le communiqué de Monsieur de Villepin. Et je reviens à l'article. Voilà. Donc voilà pour ce premier article sur le sujet ce matin. Sur l'opération américaine dans le Parisien. Mais même si les journaux sont pas très nombreux le dimanche matin, hein, le dimanche, moi, il n'y a que le Parisien que je lis, on attendra demain, lundi, pour retrouver tous les autres, je voulais trouver plein d'articles extrêmement intéressants sur Internet de ces mêmes journaux. Souvent, on va lire Les Échos, on va lire Libération, on va lire Le Monde, on va lire aussi Ouest France, on va lire aussi un site belge, on va lire le Huffington Post, pour avancer un peu, parce que là, finalement, on ne s'est intéressé qu'au plus basique et qu'au fait, à ce qui vient de se passer. On va commencer par un article des Échos. La domination américaine, ça, ce sont des mots de Trump, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais questionnée. Trump pavoise après la capture du président au Venezuela. Je pense qu'il faut s'arrêter, on pourrait s'arrêter des heures sur ces simples mots. La domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais questionnée. Voilà. Lisons. Donc en fait, ça c'est un premier article qui se penche sur la légitimation de Trump de cette opération. C'est-à-dire comment a-t-il expliqué, donc depuis sa résidence de Mar-a-Lago, là, le pourquoi, le comment de cette opération. Sous ma direction, donc ce sont les mots de Trump, hein, les forces armées des États-Unis ont conduit une opération militaire extraordinaire, c'est un président qui aime bien les superlatifs, dans la capitale du Venezuela, un assaut comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le dictateur et terroriste Maduro est finalement parti, les Vénézuéliens sont libres. Il a deux doigts de réclamer le prix Nobel de la paix. Samedi en fin de matinée, depuis sa villa floridienne de Mar-a-Lago, Donald Trump a tenu une conférence de presse qui a permis, à la suite de l'opération, donc, réussie menée dans la nuit sur Caracas, qui a permis aux Américains de capturer le dictateur Maduro et sa femme sans faire un mort du côté américain. Le prisonnier, en route pour les États-Unis, a été inculpé par le tribunal du district sud de Manhattan, donc tribunal de New York. Trump a publié une photo du dirigeant vénézuélien, je voulais montrer cette photo, en jogging, les yeux bandés, un casque sur les oreilles. Avec sa femme, ils sont accusés par les États-Unis, merci Lazarus, d'avoir orchestré un trafic de cocaïne de grande ampleur pendant plus de 25 ans. Leur procès s'annonce historique. Que dit encore Trump ? Nous allons gérer ce pays. Nous allons gérer ce pays jusqu'à pouvoir opérer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous ne voulons pas être impliqués dans l'arrivée au pouvoir de quelqu'un avec qui on se retrouvera dans la même situation, a expliqué Trump, qui explique donc que finalement il va regarder avec beaucoup d'intérêt comment va se faire la succession de Maduro, en assurant chercher la paix, la liberté, la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et veulent revenir dans leur pays. Les États-Unis sont en train de sélectionner. La phrase est incroyable. Les États-Unis sont en train de sélectionner les principaux dirigeants du pays. A précisé Donald Trump durant la conférence de presse. Les États-Unis sont en train de sélectionner les prochains dirigeants du pays. A précisé Trump durant la conférence de presse. Sans donner plus d'indications. Maria Corina Machado, qui est la figure de l'opposition vénézuélienne, qui a reçu le dernier prix Nobel de la paix, n'en fera, semble-t-il, pas partie. Hein ? Elle ne bénéficie pas du soutien ni du respect au sein de son pays, a cinglé le président américain. Cela faisait des mois que Washington massait des navires de guerre et des troupes aux abords du Venezuela, non content de couler des petits bateaux supposément chargés de drogue et d'arraisonner des tankers. L'enlèvement de Maduro est présenté comme la simple poursuite de cette campagne, d'ailleurs. Les États-Unis ont ordonné au moins 35 frappes contre des bateaux qui ont tué 115 personnes depuis le lancement de leurs opérations dans la région depuis septembre, sans jamais justifier leurs actions en public. Arrêtons-nous un instant là-dessus, puisque je vous en ai déjà parlé de ça. Vous avez ces derniers mois un certain nombre de bateaux. Là, je vois parler de 35 frappes contre des bateaux par l'armée américaine, des bateaux vénézuéliens, nommément, enfin désignés par les Américains comme des bateaux transportant de la drogue, Mais les États-Unis ont refusé de publier la moindre preuve permettant de prouver, d'affirmer que dans ces bateaux, il y avait de la drogue. Donc ce ne sont pas des gens qui ont été arrêtés, ce ne sont pas des gens qui ont été jugés. Ce sont 35 frappes contre des bateaux dont les États-Unis n'ont jamais voulu montrer, prouver que c'était des trafiquants de drogue. Et ça a tué 115 personnes. Voilà. Donc c'est la suite de ça. L'hôte de la Maison-Blanche a ajouté cette démonstration de puissance et de compétence militaire américaine à son tableau de chasse depuis son premier mandat. La traque, puis l'assassinat du leader de l'État islamique al-Baghdadi, puis du général iranien Soleimani, et l'opération Midnight Hammer sur les sites nucléaires iraniens dont on a parlé déjà beaucoup. Mais il a surtout fait l'illustration de la nouvelle stratégie nationale de sécurité dévoilée en décembre dernier, qui s'inspire de la théorie développée, alors les amateurs d'histoire connaissent cette théorie, la théorie Monroe, de la théorie développée en 1823 par son prédécesseur James Monroe, qui avait fait du sous-continent, donc américain, donc toute Amérique du Sud, la chasse gardée des États-Unis. À l'époque, il s'agissait de tenir à distance les colonisateurs européens. Pardon pour les pubs qui pop, hein. Je suis sur un site internet, on s'en fout. À présent, ce sont les Chinois qui continuent à étendre leur présence en Amérique latine via leur programme des nouvelles routes de la soie. La doctrine Monroe, qui est un truc ancien, hein, est une chose importante, mais on l'a largement surpassée, s'est vanté Trump, en s'enorgueillissant de l'expression doctrine Monroe. Et là, on retrouve cette fameuse phrase qui fait le titre de l'article. Avec notre nouvelle stratégie nationale de sécurité, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais questionnée. Voilà. Selon lui, Trump toujours, le futur sera déterminé par la capacité à protéger le commerce, le territoire et les ressources qui sont centrales pour la sécurité nationale, d'où les droits de douane, d'où la course aux métaux rares, d'où les menaces d'invasion du Panama, du Groenland, et même, on avait oublié ça, du Canada. On avait oublié ça. Rappelons qu'à un moment, le président Trump avait évoqué, sur le ton de l'humour ou pas, l'invasion du Canada. On avait oublié ça. Dans le cas du Venezuela, revenons à nos moutons. Le pétrole est au cœur des exigences de la Maison-Blanche. Dans l'immédiat, l'embargo sur le pétrole vénézuélien reste en vigueur, a précisé Trump, mais l'un des principaux objectifs du changement de régime visé à Caracas est d'exploiter les immenses ressources pétrolières du pays. Le Venezuela qui détient parmi les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Comme tout le monde le sait, le secteur pétrolier au Venezuela est en crise depuis longtemps, observait le président. Ce sont encore les mots de Trump. Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, d'intervenir, de dépenser des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières gravement endommagées et commencer à générer des revenus pour le pays. Elles pourront se rembourser grâce aux revenus pétroliers, qui devront également permettre d'assurer la prospérité des Vénézuéliens et de dédommager les victimes du régime chaviste, y compris les États-Unis. Selon Trump, il a insisté sur le vol du pétrole américain, la plus grande spoliation de notre histoire, sans citer nommément la nationalisation des groupes pétroliers par le président Chavez en 2007. L'accès aux ressources d'hydrocarbures du Venezuela est une obsession du président qui justifierait, d'après lui, l'envoi de soldats américains sur le terrain. Et donc là, on commence à comprendre. Là. Nationalisation des groupes pétroliers par le président vénézuélien Chavez en 2007. Et Trump, aujourd'hui, qui dit... En fait, c'est à nous. Reste à savoir comment les autorités encore en pouvoir à Caracas vont réagir aux requêtes de Trump. L'armada américaine reste en position. Les États-Unis conservent toutes les options militaires jusqu'à ce que leurs exigences soient pleinement satisfaites, a prévenu le président. Donc Trump prévient si d'aventure il y aurait une forme de résistance du Venezuela à ce qui vient de se passer. Nous étions prêts à lancer une deuxième attaque bien plus large, mais vu le succès de la première, c'est probablement inutile désormais. Toutes les personnalités politiques et militaires du Venezuela doivent comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut aussi leur arriver. Bon, c'est extrêmement clair. Je veux dire, ce ne sont pas des inventions de journalistes. Il suffit de lire Trump, hein, il suffit de l'écouter. Voilà. Toute personnalité politique ou militaire au Venezuela doit comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut aussi leur arriver, dit Trump. Voilà. Laissant entendre qu'il comptait sur la coopération des autorités à Caracas. Oui, c'est mieux si vous coopérez. C'est mieux si vous coopérez. Voilà. Intéressant cet article des Échos. Voilà, ce petit éclairage, encore une fois, uniquement à partir des propos de Trump. On n'est même pas sur de l'édito, sur de l'analyse, c'est juste prendre les propos de Trump. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec un article de West France sur les dessous, les ressorts de l'intervention américaine. Pardon, mais mon West France est en blanc, ça va vous piquer les yeux. Je remonte un petit peu dans le chat parce que je vois que le sujet vous inspire beaucoup. Pardon de ne pas tous vous lire. Mes aïons dans le chat. Samuel, je vis au Canada. Je n'ai pas la certitude que la même chose n'arrivera pas à Ottawa sur un coup de tête ou un désaccord avec notre ministre. Martin Glorieux nous rappelle que Trump a récemment critiqué la présidente mexicaine. C'est une femme qui est présidente du Mexique, j'ai plus l'info. Réclamant aussi en disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait avec les cartels et qu'il lui avait proposé de tout arranger pour elle. Ok. Salut Caribou. Prochaine étape, le Groenland, me dit Rushhour. Alors j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait un site où tu pouvais parier sur l'actualité de l'argent, comme les paris sportifs là. Et j'ai vu que, je sais pas, il y avait des gars qui s'étaient fait plein d'argent sur, qui avaient réussi à prédire la date d'intervention de l'armée américaine. Ah oui, c'est Polymarket, ouais. Ok, ouais, je connaissais pas ça moi. J'ai vu qu'il y avait un gars qui avait 400 000 dollars, hein, comme qui avait réussi à, qui avait parié sur la date pile poil de l'intervention américaine. Arsène Kleklik, je suis à Taïwan où ils sont inquiets d'une intervention similaire de la Chine sur le président taïwanais. Sujet dont on parle régulièrement dans cette revue de presse. Colonel Hattie, je trouve ça complètement hallucinant ces événements, mais je me demande quelle est fondamentalement la différence avec ce que faisaient les États-Unis déjà dans les années 60-70. Juste Trump assure de manière presque grossière, mais sinon le fond est le même, non. Tu n'as pas totalement tort. À ne pas confondre avec Polly Pocket, tout à fait, le gigante. Oui, j'ai vu sur l'histoire du site de restaurant de pizza à côté du Pentagone, dont certains ont remarqué que le nombre de ventes de pizza explosait en général quelques heures avant que les États-Unis décident une opération militaire. Donc je pense que les ventes de pizza de ce restaurant vont désormais être scrutées par la communauté internationale. Merci Chaolytique, merci Lazarus, merci à tous les deux. Alors, quelqu'un disait, années 60-70, aujourd'hui finalement, quelle est la différence? Les États-Unis ont toujours fait ça. Il y a Motordu qui répond, ce qui est différent, c'est qu'il y avait un contexte de guerre froide. Là, on a vraiment un État seul, dominateur du monde, qui agit par caprice. Par caprice ou par intérêt unique et égoïste des seuls intérêts américains. Je vais étudier 4 mois à Mexico dans un mois, ça ne me rassure pas du tout, ça me dit William 31. Les États-Unis prendront Taïwan avant la Chine, Astrala, écrit Francis. Ah, il existe. Alors, quelqu'un dans le chat me dit, il existe déjà un site dédié à ce restaurant de pizza qui s'appelle Pentagone Pizza Index. C'est incroyable. Intérêt américain ou trumpien s'interroge super meux. On dépasse l'impérialisme, désormais, estimes-tu, pour entrer dans une prédation personnelle du dirigeant. Alors, Prince écrit, on est aussi en contexte de guerre froide. Je pense que ce qui serait plus juste, c'est de dire de nouvelle guerre froide. L'opération au Venezuela, les gens font une fixette sur le pétrole, mais l'objectif, c'est aussi de reprendre du contrôle sur l'Amérique du Sud, de faire reculer la Chine qui investit massivement là-bas. Bon, c'est extrêmement intéressant. Je suis très heureux de vous avoir avec moi ce matin. Est-ce que vous êtes nombreux ce dimanche matin? Est-ce que vous êtes restés au lit? Ok, je n'avais pas vu, vous étiez si nombreux. Merci, vous êtes incroyables. Ok, deuxième article que je vous propose. Article de West France, pardon, il est en blanc. Il est en blanc, je ne sais pas si je peux le passer en sombre, celui-là pour vos yeux. Bon, désolé. Voilà, désolé pour vos yeux. Peu importe. Après j'aurais dû. Ouais, ah, j'ai du. Ah oui, j'ai beaucoup de blanc. Ok, désolé. Désolé. Vous m'en voulez pas? Bon, ceux qui nous écoutent en podcast, là, en replay, vous le voyez pas, mais là, j'ai des sites qui sont blancs qui vont piquer les yeux, c'est pas grave. Alors, on a un article de West France intitulé Au Venezuela, les ressorts d'une intervention américaine qui se penche sur le pourquoi du comment. D'une certaine manière, annoncée depuis plusieurs mois, l'intervention militaire américaine au Venezuela a quand même surpris tout le monde samedi matin. Les raisons de ce coup de force sont plus nombreuses et complexes que ce que veut bien dire la Maison Blanche lorsqu'elle met en avant la lutte contre le narcotrafic, nous dit West France. Le pétrole, la doctrine Monroe, la rivalité avec Pékin, quelqu'un en parlait dans le chat à l'instant, et en partie Moscou, sont autant de ressorts de cette crise dont les répercussions géopolitiques sont encore incertaines. Je vous le disais, West France est un journal régional qui a d'excellentes pages internationales également. Et donc West France qui nous dit que il y a officiellement le narcotrafic, mais il y a bien sûr le pétrole, il y a la doctrine Monroe, il y a la rivalité avec Pékin, il y a la rivalité avec Moscou qui explique aussi le pourquoi de cette opération. Lisons West France. La capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, si on s'en tient à la rhétorique de l'administration américaine depuis septembre, répondrait à une sorte d'acte de légitime défense des États-Unis face aux déstabilisations provoquées par le régime vénézuélien, ses narcotrafiquants et ses émigrés. On se souvient des bombardements à l'automne par l'armée américaine d'embarcations au large des côtes vénézuéliennes. C'est la thèse mise en avant par Washington. Ok. Difficile pourtant de s'y tenir. West France nous dit ça ne suffit pas en fait. Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves au monde de pétrole démontrées à ce jour, merci. Et Cléo, merci. Merci à toi. 300 milliards de barils est un enjeu géopolitique bien supérieur. Tous les experts des cartels de la drogue insistent sur le fait que ce pays n'est, à proprement parler, pas la principale tournante des trafiquants. Alors moi, c'est un truc que j'avais lu ces derniers mois, notamment quand on avait vu l'armée américaine taper plein de bateaux, là, faisant 115 morts. Tous les experts de la drogue internationaux des cartels insistent sur le fait que le Venezuela n'est pas, à proprement parler, la principale plaque tournante des trafiquants dans la région. Le Pérou, l'Équateur sont des lieux beaucoup plus stratégiques pour le raffinement de la cocaïne et les bases opérationnelles des mafias internationales. Voilà. En revanche, le pétrole vénézuélien est depuis toujours convoité par la puissance américaine. Même si les États-Unis sont devenus désormais le premier producteur de pétrole mondial, l'enjeu de ces ressources reste considérable, surtout depuis que Caracas a renforcé ses échanges avec la Chine. Notamment, en échange de barils de pétrole, Pékin est devenu au fil des ans le banquier de Maduro. Pour la Maison Blanche, cette carte ne devait plus rester manifestement dans les mains de son adversaire systématique, la Chine. D'ailleurs, le 10 décembre dernier, la marine américaine avait saisi un pétrolier vénézuélien en faisant enlever Nicolas Maduro. Trump renoue ainsi avec une ligne interventionniste que l'administration américaine avait écartée depuis l'échec de l'Irak. Rappelons que Trump, une partie de sa base électorale, justement, vote pour lui parce que ils ont l'impression que c'est un président qui est moins interventionniste à l'étranger. Bon, là, on est en train de se rendre compte que pas du tout, quoi. Donc, une doctrine que l'administration américaine avait écartée depuis l'échec de l'Irak, la volonté d'intervenir pour provoquer un changement de régime. Les néoconservateurs ont été, du temps de la présidence de George W. Bush, les principaux avocats de cette ligne. Depuis septembre, toutes les manœuvres de Trump ont porté au coup de ce matin, renforcement de la puissance militaire navale notamment près des côtes vénézuéliennes, exfiltration rocambolesque début septembre de l'opposante au régime Maduro, enlèvement du couple Maduro. Plus largement, cette opération s'inscrit dans le remake de Doctrine Monroe, que le président Trump a remis au goût du jour depuis janvier, depuis même décembre, je crois. Il y a deux siècles, le président américain Monroe avait recentré les priorités de la politique étrangère des États-Unis sur la maîtrise du continent américain dans son ensemble, donc avec l'Amérique latine, avec l'Amérique du Sud, contre les ingérences européennes à l'époque. En fin d'année, la doctrine de sécurité qui a été publiée par la Maison Blanche, donc c'est bien en décembre, a repris le même prisme, destiné cette fois à contrer des influences notamment, alors plus européennes, mais chinoises, en Amérique latine. Provoquer le changement de régime à Caracas répond à cette logique, tout comme le soutien appuyé avant les élections de mi-mandat en octobre au président argentin, Javier Milei, idéologiquement très proche de Trump. La logique néo-impériale de l'administration américaine prévoit un renforcement de l'emprise de Washington du nord au sud du continent. Ce n'est pas totalement nouveau. Durant toute la guerre froide, les ingérences américaines au sud du continent, Cuba, Chili, Nicaragua, ont été quasiment la norme. Ce qui est plus nouveau, c'est le contexte international néo-impérialiste. Trump agit comme en miroir aux zones d'influence que Moscou, par exemple, prétend instaurer en Ukraine ou Pékin à Taïwan. Donald Trump en fait un dogme quasiment, être imprévisible pour ses interlocuteurs, comme Samuel Etienne, qui fait des revues de presse le dimanche matin désormais. En affaires, comme dans les relations internationales, l'enlèvement du couple Maduro rentre désormais dans ce cadre. Tout comme les interventions en Somalie, et en Syrie contre l'État islamique, ou l'Iran, en juin, dont on a beaucoup parlé ici, contre le programme nucléaire iranien. Parler d'isolationnisme, comme a pu le faire au moment du retour de Trump à la Maison-Blanche, ne correspond donc pas à l'analyse des faits tels qu'ils sont enchaînés depuis le 20 janvier. Je rappelle qu'une partie des électeurs de Trump votent pour lui parce qu'ils le considèrent comme un président, salut PB Jackson, comme un président isolationniste, un président qui ne va s'occuper que des affaires américaines et pas aller... provoquer des guerres ou risquer la vie des boys, des soldats américains sur des territoires étrangers. Bon, manifestement, ça, c'est terminé. Washington ne s'interdit aucune limite et peut intervenir loin de ses bases ou dans son voisinage proche. La seule limite que Trump semble s'être donnée, c'est de ne pas replonger dans l'aventurisme durable d'une intervention très lourde, type Irak ou Afghanistan. Il est encore trop tôt pour savoir si l'opération Venezuela va rester une opération contenue, isolée, ou devenir la première vraie guerre de Trump. L'article se demande, là, en quelques mots, s'il va y avoir d'autres Venezuela dans les prochaines semaines, les prochains mois. On a Groenland. Qu'est-ce qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure? Panama. Canada. Le Canada dont Trump a dit que c'était le 51e État américain. Cuba, pourquoi pas. Alors j'en parle depuis tout à l'heure tout seul dans ma barbe, mais Ouest France en parle aussi là de son électorat. Colombie, Mexique, allons-y. Sur ce point, son propre électorat est en réalité profondément divisé. Deux figures de proue du Trumpisme incarnent les deux lignes qui s'opposent. D'un côté, le vice-président J.D. Vance américain, dont on parle beaucoup de lui d'ailleurs pour la prochaine présidentielle, parce que normalement Trump ne peut pas se représenter à la prochaine présidentielle, on parle beaucoup du vice-président J.D. Vance, farouchement favorable à un nouvel isolationnisme. L'homme est habitué à changer d'opinion et on le voit mal s'opposer au président alors qu'il brigue sa succession. Voilà. Mais la base MAGA ne veut pas entendre parler de guerre interminable. En face, le secrétaire d'État Marco Rubio, fils d'exilés cubains, est plus pragmatique, surtout plus sensible à la ligne longtemps défendue par les néoconservateurs. Le concept de changement de régime, lui, ne le heurte pas, et il pourrait voir dans un succès de l'opération Maduro un signal majeur à l'intention des millions d'hispaniques durant la prochaine présidentielle. Reste à savoir la tournure que vont prendre les événements dans les prochaines heures et les prochains jours. Le scénario vénézuélien est surveillé de très près dans toutes les chancelleries, en particulier à Taïwan, où le président américain sera inévitablement interprété comme un encouragement de facto lancé à Pékin pour qu'il étende sa propre sphère d'influence. C'est que le président Trump régulièrement lance des avertissements à la Chine pour dire « attention, pas touche à Taïwan ». Voilà. Mais à un moment, À un moment, je pense qu'à Pékin, on regarde ce qui se passe au Venezuela avec beaucoup d'intérêt. Après tout, si Trump se permet une opération militaire contre le Venezuela pour dégommer le président Maduro, pourquoi Pékin ne ferait pas la même chose avec Taïwan? Voilà. Bon, je pense que Taïwan, on va en parler plus que jamais dans les prochaines semaines, les prochains mois notamment, sur cette chaîne. Je vous lis un petit peu et on passe à l'article suivant qui est un article, cette fois de Libération, sur la chronologie de la crise entre le Venezuela et Trump, entre Maduro et Trump. Je vous lis. Je me refais un café aussi. Taïwan n'est pas une dictature, c'est moins facile à décapiter, me dit FBI. Merci à Cléo, merci encore. Ça me soulève, pendant son premier mandat, me dit Motordu, les partisans de Trump disaient, lui au moins, il n'a pas créé de guerre. Alors moi, je me rappelle effectivement, de temps en temps, viennent s'exprimer dans ce chat des pro-Trump, des Français qui trouvent formidable ce que pense et ce que fait le président américain. Et c'est un truc que je lisais très très souvent dans le chat. Oui, mais au moins, lui, il n'a pas provoqué de guerre. Et donc Motordu a écrit, ça me saoulait, pendant son premier mandat, les partisans Trump disaient, mais lui au moins il n'a pas créé de guerre alors qu'on n'était pas passé loin à plusieurs reprises. Assassinat d'un général iranien, escalade verbale avec la Corée du Nord, etc. C'était par pure chance qu'il n'y a pas eu de guerre et on le voit actuellement. Qu'importe le régime avec des actions comme ça, dit Asmodel, c'est la souveraineté de chaque État qui est remise en cause. Merci, merci Shinras, merci pour ton prime. Taïwan, le problème, c'est les semi-conducteurs. Bien sûr, Zyrus. Bien sûr. Qu'est-ce que l'ONU peut faire? L'ONU, elle peut surtout faire état de son impuissance. Comme pour la guerre en Ukraine, comme pour la Palestine. Je vous lis un petit peu. Pardon pour ceux qui nous écoutent en replay et notamment en podcast audio, je suis un peu silencieux parce que je vous lis. Il y a un Malioko qui écrit l'ONU, c'est comme ta maman qui compte jusqu'à 3 en passant par toutes les décimales possibles entre 2 et 3 pour au final rien faire. C'est trop mignon. Temps, je fais un quand je lis le chat, comme ça les gens savent que je ne dors pas. Lisons cet article maintenant de Libération. De la crise politique à la capture de Nicolas Maduro, 10 dates clés pour comprendre le conflit entre le Venezuela et les États-Unis. Merci Libération, un peu de chronologie. Un peu de chronologie. Pour comprendre pourquoi on en est arrivé ici. Parfois, il faut revenir un petit peu dans l'histoire. De son accession au pouvoir en avril 2013, donc Maduro était au pouvoir depuis 2013, donc ça nous fait 12-13 ans de pouvoir, à son renversement par la force, en ce 3 janvier, retour sur les moments clés du successeur autoritaire d'Hugo Chavez. C'est parti. Donc l'année 2026 commence à peine, hein. Commence par ce qui pourrait être l'épilogue d'une très longue crise entre les États-Unis et son ennemi de longue date, le président vénézuélien Nicolas Maduro, Ce samedi 3 janvier, Caracas a été réveillé en pleine nuit par des frappes. 3 heures plus tard, Trump annonçait avoir renversé, capturé, ce sont ces mots, Maduro, qui sera jugé aux États-Unis pour complot narco-terroriste. Cette opération militaire fait suite à des années de conflits. Hein, il y a eu des choses qui se sont produites avant. Entre Washington et ce pays riche en hydrocarbures, la mise sous pression de Nicolas Maduro par Donald Trump, elle dure depuis des mois. Le président américain accuse le successeur d'Hugo Chavez de truquer les élections et d'être à la tête d'un narco-État. Bon, remarquons que si Trump décide d'envahir tous les pays où les élections sont truquées, comment dire, on devrait avoir 2-3 trucs à commenter dans les prochains jours. Bon, il n'est pas impossible que la présence massive de pétrole dans le sous-sol vénézuélien ait un petit peu aidé quand même. Le Vénézuélien estime qu'en retour, que la Maison-Blanche cherche de longue date à prendre le contrôle des réserves de pétrole du pays parmi les plus importantes du monde. Voilà 10 dates clés qui permettent de comprendre les dynamiques entre Caracas et Washington, ainsi que l'escalade qui a débouché sur les derniers événements. Alors, on commence par le 14 avril 2013. Voilà. Maduro succède à Hugo Chavez, son mentor, au Comandante. Le dauphin est élu de justesse à l'époque. Le scrutin immédiatement contesté par l'opposition vénézuélienne qui refuse d'admettre sa victoire à la tête du pays. Les États-Unis suscitent la colère de Caracas en réclamant un recomptage des votes. Cette élection marque le début d'une crise de légitimité permanente. Donc ça, c'est en avril 2013. Juillet 2017, la création dans le sang d'une assemblée constituante entièrement contrôlée par le pouvoir chaviste marginalise le Parlement élu et l'opposition, on est sur un régime autoritaire, on est sur un régime dur, on est sur un régime qui n'est pas démocratique. Washington, dont Trump a pris les commandes récemment, dénonce une dérive autoritaire, adopte des sanctions ciblées contre des responsables du régime Maduro. Le conflit bascule d'un désaccord diplomatique à une confrontation politique assumée. 2018, cette fois, donc on est un an plus tard. Réélection de Maduro, mais contestée. Maduro est réélu, donc déjà la première fois c'était de justesse, lors d'un scrutin boycotté par l'essentiel de l'opposition. Ça veut dire quoi, chaviste? Ça veut dire qu'il se réclame de la pensée d'Hugo Chavez, le prédécesseur. Les États-Unis refusent de reconnaître le résultat de l'élection, estimant que les conditions d'un vote libre et démocratique ne sont pas réunies. Cette non-reconnaissance servira par la suite de base juridique et politique à la stratégie américaine. 2019, un an plus tard, il y a un monsieur qui est le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, qui s'autoproclame président par intérim, immédiatement reconnu par les États-Unis. Bon, ça échoue politiquement, mais l'entreprise entraîne une rupture quasi totale des relations diplomatiques entre Washington et Caracas. La crise vénézuélienne prend une autre dimension. Quand Guaido, d'ailleurs, est reconnu par de nombreux pays, dont la France. 2019, embargo sur le pétrole. Donc il y a 5-6 ans, ou plutôt 6-7 ans, poursuivant son objectif de pousser Maduro vers la sortie, l'administration américaine impose un embargo sur le pétrole vénézuélien, pilier de la fragile économie du pays. Avant l'embargo, le pétrole représentait 96% du revenu national. Les trois quarts de ses revenus pétroliers provenaient de clients américains. Depuis, le pays écoule sa production pétrolière sur le marché noir à des prix nettement plus bas, notamment vers la Chine. 2020, un an plus tard, Maduro inculpé pour narcotrafic. Ce jour-là, alors que le monde entier se débat face à la pandémie de Covid, le département américain de la justice inculpe officiellement Maduro et plusieurs membres de son entourage pour narcoterrorisme. Je vous ai mis un article de côté plus tard sur qu'est-ce que valent ces accusations de narcotrafiquants contre Maduro. Voilà. Donc, pour narcoterrorisme, trafic de drogue et autres crimes fédéraux. Démarche rarissime pour un chef d'État en exercice. L'acte d'accusation fédéral affirme que Maduro et des responsables vénézuéliens ont dirigé une organisation criminelle, parfois désignée par les autorités américaines comme le cartel des soleils, qui aurait conspiré pour inonder le marché américain de cocaïne et collaborer avec des groupes armés tels que les forces armées révolutionnaires de Colombie. Washington offre également une prime de 15 millions de dollars pour toute information conduisant à l'arrestation de Maduro. À compter de cette date, le chef d'État vénézuélien est considéré comme un criminel. 2023, il y a des accords dits de la Barbade entre Maduro et la coalition d'opposition sous médiation norvégienne. Ah, c'est intéressant. Accord qui prévoit l'organisation d'une présidentielle en 2024 avec des garanties électorales, saluées par les États-Unis, qui étaient dirigés par Biden, et par l'Union européenne. Ces engagements entraînent un allègement conditionnel des sanctions américaines, notamment dans le domaine pétrolier, mais dès le mois suivant, la confirmation par la justice du pays de l'inéligibilité de figures majeures de l'opposition vide l'accord de sa substance. Pour Washington, comme plusieurs capitales européennes, le recul marque un échec d'une voie diplomatique et justifie le rétablissement des sanctions. 14 août 2025, donc là on rentre vraiment dans l'actu, c'était il n'y a pas longtemps, le déploiement militaire américain. Ce jour-là, les États-Unis déploient une flottille de guerre dans les eaux des Caraïbes. La raison officielle, lutter contre le trafic de drogue qui inonde le marché américain. Même si la réalité des liens entre le chef de l'État vénézuélien et le trafic de drogue est assez floue et que le Venezuela ne soit qu'un point de passage mineur de la cocaïne en Amérique centrale, Caracas y voit évidemment une nouvelle menace directe et mobilise un nombre absurde de 4,5 millions de miliciens. Absurde parce qu'en réalité, Caracas était sans doute dans la capacité de mobiliser autant de gens. Bonjour, premièrement, bonne année à tout le monde. Puis-je me permettre une question qui n'a rien à voir avec le stream actuel? Est-ce qu'une date a été annoncée pour Pokérayou saison 2? Est-ce que tu vas y participer? Des bisous. Alors. Alors, Rayou. Ouais, je vois. Mon ami. Mais Pokérayou, je ne sais pas ce que c'est. Désolé, je n'ai pas. On me dit le 14 janvier. Je ne sais pas ce que c'est le Pokérayou. Je ne crois pas avoir participé à la première édition parce que de toute façon, je me souviens de pas grand-chose. Et pour répondre à ta question, non, je ne suis pas invité. Voilà. Mais pour le coup, je ne sais pas de quoi il s'agit. On me parle de Minecraft. Ok, très bien. Bon, petite parenthèse gaming dans ce débat. Et puis, 2 septembre 2025, encore plus proche de nous, moins d'un mois plus tard, les États-Unis poursuivent leur manœuvre en lançant cette fois des frappes ciblées contre des groupes de narcoterroristes. Accusé d'opérer depuis ou avec la complicité du Venezuela, le tout sans jamais fournir aucune preuve qu'il s'agissait bien là de trafiquants de drogue. Le gouvernement vénézuélien dénonce une violation de sa souveraineté et une agression par le 115 morts. À partir de là, la rhétorique change. Le Venezuela n'est plus seulement un régime autoritaire à sanctionner, mais une menace sécuritaire régionale. Washington prépare l'opinion à des actions militaires plus directes et teste les réactions internationales. Voilà. Et bah, on a vu ce qui s'est passé. On arrive au 3 janvier 2026. Les États-Unis bombardent Caracas et les provinces environnantes. Quelques heures plus tard, Trump affirme sur son réseau social avoir neutralisé le pouvoir exécutif et capturé le président vénézuélien. L'issue tant redoutée de l'opération anti-drogue de l'administration Trump, attaque directe contre un pays souverain et un changement de régime par la force militaire. Voilà pour ce retour sur une quinzaine d'années de relations entre le pouvoir vénézuélien et le pouvoir américain. Un peu de contexte, ça ne fait pas de mal. Je vous propose de passer à l'article suivant, qui est un article d'un site belge 7 sur 7 sur... Ah! Ben voilà! Quelle est la réalité? Merci Sinras. Quelle est la réalité des accusations de narcotrafiquants contre le président Maduro, puisque c'est l'une des principales accusations portées par Trump contre le président vénézuélien. Nicolas Maduro est-il vraiment un baron de la drogue, comme l'affirme Trump? Alors, pour résumer l'article qui est très très long, pour ceux qui sont un peu impatients, voilà. Alors 7 sur 7 n'est pas notre meilleur site d'info en Belgique. Ouais, Cyclope PB, mais pour le coup j'ai lu l'article parce qu'avant de vous le proposer... Je l'ai lu et l'article est plutôt bien, bien écrit. Alors, l'accusation peut sembler excessive, écrit le site, mais ne serait pas entièrement dénuée de fondement. Voilà. En témoigne l'affaire des neveux narcos de Maduro et d'une opération de la CIA qui aurait tourné au fiasco. Lisons rapidement, je vais vous le lire un petit peu en diagonale pour avoir les infos. Je vais aller à l'essentiel. Le caractère autoritaire et répressif du président vénézuélien ne fait guère de doute. Proche de la Russie, Maduro dirige un régime accusé d'éliminer ses opposants selon des méthodes rappelant celles de Poutine, y compris hors des frontières nationales. Là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Le sort de Ronald Ojeda, 32 ans, ancien lieutenant vénézuélien réfugié au Chili après avoir été accusé de préparer un coup d'État, en est une illustration marquante. En février de l'année dernière, Ronaldo Reda avait été enlevé à son domicile, à Santiago, au Chili. Son corps a été retrouvé plusieurs jours plus tard, dissimulé dans une valise enfouie sous une couche de béton fraîchement coulée. Selon les conclusions de l'autopsie, l'ancien officier vénézuélien aurait subi des sévices et serait décédé par asphyxie, laissant entendre qu'il était encore en vie au moment de son ensevelissement. Voilà. Oui. Si on interroge les autorités vénézuéliennes, peut-être qu'on est peut-être sur la piste d'un suicide, hein, ou d'un accident. L'enquête menée par le Chili a attribué le meurtre à des membres du Tren de Aragua, gang criminel vénézuélien classé comme organisation terroriste par les États-Unis. Le commanditaire présumé serait Diosdado Cabello, considéré comme le numéro 2 du régime vénézuélien et actuel ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix. Le titre est juste génial. C'est ce monsieur-là. Ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Paix. Et peut-être un petit peu du BTP, hein, si je m'en fie aux informations précédentes. Alors bon, que le régime Maduro ne soit pas un régime d'enfant de cœur, bon ça, il y a zéro débat là-dessus. Maintenant, est-ce que Nicolas Maduro et son entourage sont également impliqués dans le narcotrafic ? La réponse est affirmative, selon Juan Miguel Mateus, qui est un professeur de droit vénézuélien en exil. Selon lui, le régime s'est mis au service du crime organisé à partir du moment où Hugo Chavez a interdit en 2005 l'accès du pays à la DEA, l'agence antidrogue américaine. Toujours d'après ce juriste, le pouvoir vénézuélien a ensuite tissé des liens étroits avec les FARC, le mouvement rebelle colombien voisin, pour lequel le trafic de cocaïne est progressivement passé du statut de moyen de financement à celui d'objectif central. Coopération que Nicolas Maduro aurait prolongée après son arrivée au pouvoir et qui a conduit en 2020 une inculpation par la justice américaine pour trafic de drogue aux côtés de 14 hauts responsables du régime. Donc oui, selon ce juriste vénézuélien en exil, oui, le régime de Maduro, par son alliance avec les FARC de Colombie, tremperait dans le trafic de drogue. Merci Opto. Merci Opto 2A. Peu d'experts donc contestent la responsabilité du régime de Maduro dans l'essor du narcotrafic. En revanche, l'implication personnelle du président vénézuélien et surtout son ampleur demeure sujette à débat. L'affirmation selon laquelle, c'est l'affirmation de Trump, il serait l'un des plus grands trafiquants de drogue au monde s'accorde en effet difficilement avec les volumes de cocaïne transitant par le Venezuela, selon des données officielles américaines. Moins de 10% de la cocaïne destinée au marché américain passerait par le pays. La proximité entre le pouvoir et le crime organisé est toutefois apparue au grand jour en 2015 avec l'arrestation des surnommés « neveux narcos ». Efren Antonio Campo Flores et Franqui et Francisco Flores de Freitas, qui sont des neveux de Cilia Flores, qui est l'épouse de Maduro, ont été interpellés en Haïti alors qu'ils tentaient d'acheminer 800 kilos de cocaïne vers les États-Unis. Donc c'est des neveux de la première dame. C'est, vous les voyez ici et ici. Voilà. 2 ans après l'arrestation, un tribunal de New York a condamné ses deux neveux à 18 ans de prison. Si la participation directe de Maduro à la contrebande n'a jamais été établie de manière définitive, Washington continue de le présenter comme le chef présumé d'un véritable cartel. Le cartel de Los Soles, selon les autorités américaines, existerait depuis au moins 25 ans et tirerait son nom de soleil figurant sur les épaulettes des généraux vénézuéliens à l'image du ministre de la Défense. Ici, là. Le soleil. Le cartel des soleils, tel qu'on l'évoque aux États-Unis, n'est pas une opposition structurée à proprement parler. Le terme a été inventé par des journalistes vénézuéliens pour désigner le phénomène consistant à associer de hauts responsables gouvernementaux au trafic de drogue. Voilà. Donc, que dit l'article dans ses grandes lignes ? Que, effectivement, la collusion entre ce régime et le trafic de drogue est réelle, notamment par l'alliance avec les FARC, qu'effectivement, de hauts responsables vénézuéliens semble avoir trempé dans le narcotrafic. En revanche, que l'implication personnelle directe du président Maduro, qui est l'accusation de Trump, dans le trafic de drogue à grande échelle, elle, à ce jour, n'est pas démontrée. Après, il y a un procès qui semble arriver aux États-Unis sur le sujet. Il serait intéressant de voir ce que ce tribunal dira et quelles preuves il mettra en avant pour prouver cette implication supposée du président Nicolas Maduro dans le trafic de drogue. Je vous lis, hein, pardon. Bonjour à tous. Il y en a combien des matinées Étienne dans la semaine? Alors, il y en a 5 minimum du lundi au vendredi. Et puis, cette semaine était un peu particulière. J'en ai rajouté une samedi, puisque désormais, le samedi, je fais la revue de presse des bonnes nouvelles. Pour nous remettre à espérer au moins le samedi dans les, dans le genre humain. Et donc, le samedi, je vous fais l'après-midi, hein, une revue de presse des bonnes nouvelles. Du lundi au vendredi, c'est l'actualité de tous les jours. Et puis, j'en ai fait une aujourd'hui, aussi exceptionnellement, pour parler du Venezuela. Donc là, on est en 7 sur 7, mais normalement, c'est 5 sur 7. Mais bon, je n'arrive pas à me désintoxiquer de l'information, quoi. Merci, Osef. Tu n'avais pas besoin de ton soutien. Je vous lis, hein, je vous lis. Je vous lis. Est-ce qu'on sait où est incarcéré Maduro et dans quelles conditions? Non, on est le jour, mais j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais demain je t'en parlerai sûrement, quoi. La revue de presse du samedi, ce sera tous les samedis, Marceau, ouais. C'est nouveau, ça. On n'entend pas beaucoup parler de son épouse. Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai très peu de choses sur l'épouse de Maduro, qui pourtant, elle aussi, a été arrêtée. Je ne sais pas ce qui lui est reproché par Trump. Tu as vu le communiqué de Macron, tu en penses quoi? On en a parlé, Sébastien Lecornu en sueur. Très beau pseudo, mais on va en reparler tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on parle pas beaucoup de son épouse d'ailleurs. Ouais. Alors, on me dit qu'il est dans une prison à Brooklyn. Ok. Alors, j'ai plein d'autres articles, hein, c'est pas terminé. Let's go. Alors, quelqu'un me disait, Samuel, t'as vu la réaction de Macron? Regardez, cet enchaînement. Article du Huffington Post, qui est un site d'information uniquement sur Internet, de qualité, le HuffPost. Voilà. La réaction de Macron à la capture de Maduro, saluée par Trump et triée en France. Quoi? Une réaction de Macron saluée par Trump? Alors là, ça n'arrive pas souvent. Effectivement, le président Macron a pris beaucoup de pincettes, salut Ferrander, pour qualifier ce qui vient de se passer au Venezuela. Et donc le président Macron lui-même est très critiqué par certains opposants en France. Le président de la République, français donc, voilà, qui a salué la chute du président vénézuélien, mais sans s'arrêter sur les conditions de sa capture. C'est ce qui lui reprochait par l'opposition en France. Qu'est-ce qu'a écrit le président Macron? Pas prophète en son pays, Emmanuel Macron a pris acte, donc samedi 3 janvier, de la fin de la dictature Maduro, dont le peuple vénézuélien ne peut que se réjouir, a-t-il écrit. Une position relayée par le président américain Trump sur son réseau social, mais qualifiée de honte par la gauche notamment, qui accuse le président français de complaisance envers les États-Unis. Le peuple vénézuélien, aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro, ne peut que s'en réjouir, a donc écrit sur X le chef de l'État, en confisquant le pouvoir, en piétinant les libertés fondamentales, Nicolas Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. A-t-il insisté, sans évoquer dans son tweet, c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui, les attaques américaines qui ont abouti à cette capture. L'entourage du chef de l'État a fait savoir peu après qu'il avait pris acte de l'opération américaine. Un dictateur a été déchu. Le droit international doit désormais être respecté, a fait-on valoir de même source. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, leader de la France insoumise, la prise de position de Macron n'est pas la voix de la France. Il nous fait honte. Il abandonne le droit international. Jour sombre pour notre pays, a-t-il encore écrit, appuyé par Manuel Bompard, LFI toujours, qui s'est désolé de voir la France réduite à féliciter les coups de force de Trump. Même indignation du côté du Parti socialiste. Selon son premier secrétaire Olivier Faure, la France n'est pas un État vassal des États-Unis, notre président ne peut pas se comporter comme un simple porte-parole de la Maison-Blanche. Emmanuel Macron piétine ce soir toute notre histoire diplomatique. Une honte, a abondé le patron des sénateurs PS Patrick Kanner. Honte ultime même pour le numéro 1 du Parti communiste Fabien Roussel, pour qui la France est rabaissée au rang de 51e État des États-Unis. Samedi en fin d'après-midi, plus d'un millier de personnes agitant pour certaines des drapeaux vénézuéliens étaient réunies place de la République à Paris pour protester contre l'attaque et une petite manif hier après-midi. À l'appel notamment de les filles du Parti communiste. Ce qui est intéressant, c'est que le ministre français des Affaires étrangères a été beaucoup plus critique de l'action de Trump, Jean-Noël Barrot, qui a affirmé que, merci Pébassit, merci beaucoup, que l'opération américaine contrevenait au droit international. La France rappelle qu'aucune solution politique durable ne saurait être imposée de l'extérieur et les peuples souverains décident seuls de leur avenir, a écrit Jean-Noël Barrot. C'est intéressant de voir que le chef de la diplomatie française ne tient pas les mêmes propos que le président français. Emmanuel Macron lui a préféré mettre l'accent sur la transition à venir, qui doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. En ce sens, il plaide pour que celle-ci soit assurée au plus vite par Edmundo González Urrutia, candidat de l'opposition à la présidentielle de 2024, alors que Trump a de son côté déclaré que les États-Unis, on l'a vu tout à l'heure, dirigeraient le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique sûre puisse avoir lieu. On a même vu tout à l'heure que dans ses propos, Trump disait clairement qu'il allait choisir, désigner les prochains dirigeants du pays, quoi. Sélectionner, je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Ce qui importe à présent, est que la parole revienne au plus vite au peuple vénézuélien, appuie en cours encore l'entourage de Macron. Voilà. Alors, l'article ici du HuffPost souligne que d'autres responsables politiques français se sont employés à ce fragile, à cet équilibre d'équilibriste. Par exemple, Raphaël Glucksmann. Pas une larme pour le dictateur Maduro, mais il faut avoir conscience que nous entrons dans un monde sans droit international où prévoit la loi du plus fort. Gabriel Attal, patron de Renaissance, a affirmé qu'il ne regrettait pas le départ du dictateur. Il voit dans l'opération américaine un signe supplémentaire que le monde est désormais régi par la force et a incité les Européens à s'adapter pour ne pas être cantonnés au rôle de spectateur impuissant, notamment en donnant plus de moyens à l'armée française. La patrouille du RN, Marine Le Pen? Non, Marine Le Pen n'est pas la patronne du RN, ami du Huffington Post. Le président du parti, c'est Jordan Bardella. Marine Le Pen est la présidente du groupe RN à l'Assemblée. À moins de se dire, mais dans ce cas-là, il faut l'écrire, que Jordan Bardella est un président fantoche et que la vraie patronne du RN, c'est Marine Le Pen. Mais si on veut respecter les formes, Marine Le Pen n'est pas la patronne du RN aujourd'hui. Peut-être même qu'elle ne sera pas la candidate, d'ailleurs, du parti à la prochaine élection. Petite coquille du site. Donc la patronne du RN a jugé qu'il y avait 1000 raisons de condamner le régime de Nicolas Maduro, communiste, oligarchique, autoritaire, mais que la souveraineté des États n'est pas négociable. Renoncer à ce principe aujourd'hui pour le Venezuela, pour n'importe quel État, reviendrait à accepter demain notre propre servitude, a déclaré Marine Le Pen. Ok, ça c'est pour les réactions en France. Je vous lis. Alice Bor estime que considérer que le monde est dominé par la force est une vision très fasciste du monde. Ça a toujours été un argument du fascisme, le réalisme. Je vous lis, hein. Je vous lis un petit peu. Maduro était un dictateur débutant, estime Arkane Soukour. Il a supprimé les pouvoirs de l'Assemblée nationale, puis carrément l'Assemblée nationale in fine, et développé une politique autoritaire. Mais les États-Unis font comprendre au monde que la force est revenue dans les relations internationales et qu'ils ne reculeront devant rien. Merci Gressoir pour l'abonnement offert MMG, pour leurs intérêts. Move Turtle, bonjour, je parle pas souvent, bonjour à toi. Je salue tous ceux d'ailleurs qui écoutent régulièrement ces revues de presse sans forcément participer. Hein, on n'est pas obligé de participer, on n'est pas obligé d'écrire. Qui nous écoutaient un petit peu en mode radio. Merci d'être là. Et Move Turtle nous dit bonjour, je parle pas souvent, mais je connais le sujet faisant partie de la diaspora vénézuélienne. Le sentiment général de joie suite à la chute du dictateur Maduro est célébré. En revanche, il est clair pour tout le monde que Trump n'agit que dans son propre intérêt. Merci pour ton témoignage qui est extrêmement intéressant. René Descartes, loin d'être pro-Macron, il faut se rendre compte de la réalité du monde. Macron fait de la diplomatie, sa priorité c'est l'Ukraine. Il ne peut pas lâcher les États-Unis. Alors c'est marrant parce que Connellati dit un peu la même chose que la personne qu'on vient de lire à l'instant. Y a-t-il un seul dirigeant européen qui a vraiment condamné l'intervention américaine? Ils savent sûrement tous que si les Européens haussent le ton, l'Ukraine est lâchée demain. Je ne suis pas spécialement macroniste, mais je pense que dans cette situation, il ne peut rien dire. C'est intéressant. Que le Venezuela fasse le devant de l'actualité, c'est logique, mais je vois très peu parler de ce qui se passe en Iran actuellement. Manifestation et semble tire sur la population. Valarocar, je ne t'impose pas toute la revue de presse de cette chaîne, mais j'en ai parlé cette semaine de ce qui se passe en Iran dans la matinée Étienne. Merci Papygun pour le Prime. Merci encore Move Turtle pour ton message de tout à l'heure. Akan Sukur, ce qui m'intrigue, c'est comment Trump, dans la politique interne américaine, justifie toutes ses interventions clairement impérialistes auprès de sa base MAGA, Make America Great Again. A priori, avec le America First, cela préserve nos intérêts. Mais malgré tout, la promesse MAGA, c'est de s'occuper de l'intérieur des frontières avant tout. Tout à fait, c'est un paradoxe. Mais je pense que le président américain en a d'autres de sa politique étrangère. Ouais. Question intéressante de l'outre en joie. On parle beaucoup de joie. Mais qu'est-ce que se passe-t-il actuellement au Venezuela? Est-ce que les Vénézuéliens ont célébré l'intervention dans la rue, par exemple? Quelle est la réaction sur place? Dans un article qu'on a lu tout à l'heure, ce que je lisais, c'est que les Vénézuéliens, notamment les habitants de Caracas, pour l'instant, se cachaient, se tairaient, restaient chez eux. Tu m'étonnes. Hein. Il y a d'abord les explosions, les bombardements, l'opération militaire, et puis il y a la crainte aussi, comme dans le passé, de répression éventuelle de l'actuel pouvoir en place qui voudrait reprendre le pays en main, quoi. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu d'article sur des manifestations populaires de l'IS, quoi. Notamment pour sans doute des raisons de crainte pour la sécurité, quoi. La grosse question que je me pose, me dit Aaron 90, c'est qu'est-ce qui va empêcher maintenant la Chine d'envahir Taïwan? La Russie d'enlever Zelensky avec les bons arguments et ils trouveront toujours la bonne excuse. Question. Alors, j'enchaîne avec maintenant un article de Libé sur, ben, notamment, on me posait la question de la réaction des pays de la région, des pays de l'Amérique latine, des BRICS aussi, des nouvelles puissances, tout à l'heure dans le chat. Et peut-être qu'on a des éléments de réponse dans cet article de Libération. Capture de Maduro au Venezuela, la communauté internationale entre larges inquiétudes et lourdes condamnations, Macron et des Européens détonnent. Vive réaction à travers le monde, là vous avez une photographie de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, c'est un article de Libé. À l'instar du ministre français des Affaires étrangères, donc M. Barrot, dont je vous ai parlé, Jean-Noël, qui estime que l'intervention contrevient au principe de non-recours à la force. Qui fondent le droit international, les chancelleries européennes ont d'abord appelé ce samedi 3 janvier au respect du droit international. J'ai un message de Léo dans le chat. Je suis vénézuélien, ça fait trop bizarre que maintenant les yeux du monde se tournent vers nous. J'espère vraiment que ça aidera le pays à aller mieux. Force à vous. Dans la matinée, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, dit avoir appelé à la retenue lors d'un échange avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souhaitait une transition pacifique et démocratique. Toute solution doit respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, a-t-elle ajouté. Ça mange pas de pain. Antonio Costa, qui est le président du Conseil européen, a dit suivre la situation avec grande inquiétude et appelé à la désescalade. Ailleurs en Europe, le gouvernement espagnol, quelle réaction de l'Espagne, a proposé de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les États-Unis, Madrid appelant à la désescalade, à la modération, à agir dans le respect du droit international, décidément. Pour le Premier ministre polonais Donald Tusk, un événement comme l'attaque américaine contre le Venezuela affecte le monde entier. Nous réagirons et nous préparons cette nouvelle situation. Donc lui, il a vraiment fait un communiqué pour rien dire, quoi. Ok. Mais les positions européennes se sont durcies au fil de la journée. Emmanuel Macron, sans un mot sur l'opération, on dit Tusk. Ah oui, on dit Tusk. On dit pas Tusk. Ah oui, oui, ça c'est un peu l'américain. Ah, on dit Tusk. Pardon, excusez-moi. Donald Tusk. Ok, Tusk. Moi aussi, d'ailleurs, à cause des petits virus de l'hiver, ces derniers temps, j'ai beaucoup Tuské aussi. Mais je fais attention pour la prochaine fois. Tusk, ok. Donc, Emmanuel Macron, sans un mot sur l'opération militaire menée hors de tout cadre légal, a affirmé que le peuple vénézuélien a toujours été débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. Et précise, en confisquant le pouvoir, en piétinant les libertés fondamentales, ce qui est pour le coup ce qui est vrai, Maduro a apporté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique, respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Sur une ligne similaire à Emmanuel Macron, Friedrich Merz, qui est le chancelier allemand, si je ne dis pas de bêtises, a jugé peu après que le président vénézuélien avait conduit son pays à la ruine. Maduro a joué un rôle problématique dans la région, notamment en impliquant le Venezuela dans le trafic de drogue, a jugé le chancelier, rappelant que l'Allemagne n'a pas reconnu les dernières élections vénézuéliennes truquées. Giorgia Meloni, dont on a vu la photo ici, donc la présidente du Conseil italien, a pour sa part affirmé qu'une action militaire extérieure n'est pas la manière de mettre fin au régime totalitaire, mais considère dans le même temps légitime une intervention militaire défensive contre des attaques hybrides. Un petit en même temps. C'est marrant parce que Macron et Meloni se sont rapprochés récemment sur la question du Mercosur. Je me demande si Mélanie n'est pas en train de se macroniser. À moins que Macron serait en train de se méloniser. Mais pas Mélenchon, Mélanie. Enfin bon, vous suivez. Enfin, Royaume-Uni. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a changé de pied. Après d'avoir souligné que les pays devaient respecter le droit international, le responsable britannique a souligné dans la soirée que Maduro était un président illégitime et qu'il ne versera pas de larmes sur la fin de son régime. Merci Camille Autor. Camille Autor me demande si je regarde la CAN. Non, j'ai honte, je suis nul. Écoutez, ma culture sportive est nulle. Ma culture sportive est nulle. Ouais, j'avais pas vu les pubs là. Oh là, c'est affreux. Ah non, c'est des articles pour le coup. Waouh. Ne lisez pas les articles sur le côté qui sont bizarres. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je suis nul, ma culture sportive est nulle, voilà, et je me penche pas sur la Coupe d'Afrique des Nations, mais pourtant je suis sûr que c'est fascinant. Je vois que le Maroc fait un beau parcours, les Marocains rêvent d'un titre. Hein. En revanche, je m'interroge beaucoup sur la Coupe du Monde de football, alors pas pour des raisons sportives, mais géopolitiques. Hein. Vous le savez, il y a notamment la question du prix des places. Jamais un mondial de football n'aura vendu les places pour assister aux matchs aussi chers. Et puis surtout, vous avez plein de supporters de pays jugés indésirables par Trump qui ne vont pas pouvoir assister aux matchs simplement parce qu'ils seront interdits de visa. Voilà. Donc ça pose plein de questions. Vous savez que la dernière Coupe du Monde... J'avais pris une position un peu particulière. J'avais décidé de donner aucun résultat des matchs parce que j'estimais que les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde était organisée et au vu du rapport de ce pays aux droits de l'homme, des femmes notamment, me faisait pas super valider le fait que c'est ce pays qui a été choisi. Donc j'ai pas donné le résultat de cette Coupe du Monde sur ma chaîne. En vrai, on s'en fout, hein, puisque les gens viennent pas sur ma chaîne pour avoir les résultats du foot, mais c'était très symbolique. C'est la différence entre une chaîne Twitch, je fais une petite parenthèse, et un média traditionnel. Un journaliste sur un média traditionnel, il est au service d'une ligne éditoriale qui n'est pas décidée par lui. Hein. Donc, il peut tout à fait couvrir des actualités sur lesquelles il a personnellement un problème, quoi. Mais quand, et c'est ce qui est intéressant avec l'explosion des sources d'information sur Internet, quand tu es tout seul pour proposer un rendez-vous d'information à ta communauté, il est évident que ça implique un certain alignement entre tes propres valeurs, tes propres idées et ce que tu proposes. De façon très subjective, mais il faut l'assumer. Et donc, quand toi, par exemple, tu estimes que la dernière Coupe du Monde au Qatar, si je ne dis pas de bêtises, est problématique, hein, notamment en raison des conditions de travail et de sécurité sur les chantiers des stades, avec les milliers de morts dénoncés par les ONG, la question des droits de l'homme, la question des droits des femmes, etc., bah, tu es obligé en fait, de te positionner par rapport à un sujet, alors que si tu bossais pour une rédaction, comme moi j'ai bossé par exemple pour plusieurs rédactions, comme France Info pour citer la dernière, bah en fait, là tu te mets au service d'un projet éditorial qui n'est pas le tien, et personne va t'interpeller sur France Info en disant ah, mais pourquoi tu donnes les résultats de la Coupe du Monde de football au Qatar au vu des conditions de ce mondial. Personne ne va m'interpeller puisqu'ils savent que ce n'est pas une décision que moi je prends, c'est une décision de la ligne éditoriale de France Info. En revanche, sur ma chaîne, quand je parle d'un sujet, on peut m'interpeller en me disant « mais c'est ta chaîne ». Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que à la Coupe du Monde, j'ai pris cette décision totalement symbolique parce que personne ne vient sur ma chaîne pour avoir le résultat du foot, bien sûr. Quoi. La question se pose, bien sûr, de ce que je ferai pour la prochaine Coupe du Monde parce que j'avais pris cette décision à l'époque, encore une fois, qui est une décision complètement symbolique, qui a évidemment aucun impact sur personne, je veux dire, tu vois. Encore une fois, les gens viennent pas chez moi pour avoir les résultats du foot, quoi. Donc c'est totalement symbolique. Ce qui m'avait valu quelques petites attrapages de veste, bien sûr, sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Et donc là, c'est intéressant parce que j'ai quelques comptes très, très peu nombreux, mais assez virulents, qui, de la même manière, essaient de m'attraper la veste en ce moment sur la prochaine Coupe du Monde, les États-Unis. Voilà. Donc tous les jours à peu près, ils sont pas très nombreux, mais c'est tous les jours. Tous les jours, j'ai le droit à mon petit tweet, mon petit retweet de gens qui viennent qui citent mon tweet d'il y a quelques années en mode alors, bon, avec des petits mots gentils, hein. C'est-à-dire, on en est sur un réseau social X pour pas le nommer qui est assez apaisé, donc le mot fils de pute revient beaucoup, voilà. ou son équivalent FDP, voilà. Quand est-ce que tu vas boycotter les championnats du monde de football aux États-Unis, qui sont aussi aux États-Unis et au Mexique d'ailleurs. Alors évidemment, je pas que ça à foutre de répondre à ces 4-5 tweets par jour. Ma vie est ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me pose vraiment la question. C'est-à-dire que ce championnat, cette Coupe du Monde de foot est organisée dans des conditions extrêmement problématiques. Pour les raisons que je viens d'évoquer, le prix des billets et le fait qu'il y a plein de supporters qui ne pourront pas venir soutenir leur équipe parce que Trump a dit « moi je ne veux pas de ressortissants de ce pays », ce qui est extrêmement problématique. Voilà. Donc est-ce que de la même manière, et ça n'aura aucun intérêt, mais c'est juste une façon d'être cohérent par rapport à mes valeurs, est-ce qu'à un moment, je vais boycotter, c'est un grand mot, hein, mais décider de ne pas donner les résultats de cette Coupe du Monde sur, à titre très symbolique sur ma chaîne Twitch, mais encore une fois, personne ne vient sur ma chaîne pour regarder les résultats du foot, peut-être que je le ferai. Mais je le ferai en connaissance de cause, sans doute juste avant le Mondial, et au fil de toutes les informations sur les sujets que je viens d'évoquer. Le prix des billets, et notamment l'impossibilité de l'accès à certains supporters, parce que Trump estime que c'est des pays problématiques pour soutenir les matchs. Ouais. Mais le Mondial, c'est pas tout de suite. Donc je prendrai peut-être cette décision. Et si jamais je prends cette décision, ben je me ferai insulter, avec sans doute les mêmes mots, par les amis de Trump... Qui existent, ils ont bien le droit, alors s'ils veulent soutenir Trump, c'est pas mon problème. Voilà. Mais en ce moment, je me fais plutôt attraper par les autres. Voilà. Petite polémique du moment. Voilà. Mais c'est un peu tôt, je pense qu'on va attendre un petit peu les prochaines infos, quoi. Je réponds à ça parce que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de répondre à chaque tweet qui me traite de fils de pute sur Twitter. Et donc, du coup, je fais une petite réponse ici, comme ça, c'est fait, quoi. Bon, mais par contre, ils peuvent continuer à me traiter de fils de pute, j'en ai rien à foutre, je suis habitué, quoi. Ok? Quand tu parles d'actu et qu'à un moment, tu décides de prendre position sur les sujets, de porter tes couilles, comme disent les jeunes, bon, bah, t'entends, tu t'exposes au fait qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec toi et qui l'expriment de façon plus ou moins élégante, quoi. Bon, tu sais quoi? On s'habitue. Alors, sujet suivant. Enfin, sujet suivant. Article suivant. Hop. Alors, c'est un édito. Donc, un éditorial. C'est un article un peu particulier où le journaliste. CHX Early. Charlie, peut-être? Salut à toi. Merci, Gogo. Merci, Camille Auteur. Merci, Papy Gun. Un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Là, on a Jonathan Boucher-Peterson, qui est un spécialiste de politique, si je dis pas de bêtises, qu'on a déjà reçu dans l'hebdo Étienne. Venezuela, Donald Trump se pose en gendarme, mais n'est qu'un vorace pyromane. En renversant Maduro, écrit Jonathan Boucher-Peterson, la première puissance mondiale vient de franchir un cap. Son président mène une croisade idéologique et égotique tout en lorgnant le pétrole du Venezuela. Une démocratie ne devrait pas faire ça. Bon, là, c'est un édito, c'est vraiment un journaliste qui donne son avis. Salut Alexandra, merci d'être avec nous. Toujours, ils mettent des photos pas sympas quand même. Hein. Moi, je comprends pas ça. Trump, c'est quand même un bel homme. Hein. De la prestance, de l'allure. Pourquoi chaque fois mettre des photos vraiment ignobles du gars, quoi? C'est dingue, ça. Hein. Il a pas besoin de ça pour... c'est pas très... Mais c'est un bel homme, quand même. Non mais quand même. Hein? Et puis de l'énergie aussi. Moi je me suis toujours demandé d'où il pouvait tirer toute cette énergie. Donc là, mais chaque fois les médias mettent des photos pas mal de lui, quoi. On continue. Comment ça je suis... Ah, il faut que je me connecte. C'est réservé aux abonnés. Ouais, attends. Putain, j'ai mon petit carnet. Faut que je me connecte. Connecté. Alors, email. Ça, je crois que c'est bon. C'est bon, je vous montre pas mon mot de passe. Mais hop, je me suis connecté en 2 secondes. Il est trop fort, ça me le tient. Okay, let's go. Lisons. Alors, on peut être sidéré par ce passage à l'acte, écrit l'éditorialiste de Libé. Concrètement, l'enlèvement d'un président en exercice et de sa femme. Pensez pour l'épouse de Maduro quand même, on n'a pas trop de nouvelles d'elle. Et leur exfiltration vers le territoire américain, les poursuites vont être engagées contre eux. Est-on vraiment surpris par l'opération menée par les États-Unis? Pas vraiment. On repense évidemment à l'intervention américaine au Panama en 1990, déjà un 3 janvier, pour faire tomber et arrêter le général Noriega. Je me demande si à l'époque on l'appelait pas tronche d'ananas, lui. Les gens qui l'aimaient pas l'appelaient tronche d'ananas, Noriega. Je crois qu'il avait la peau du visage un peu abîmée. Tronche d'ananas, il l'appelait. Je crois que c'était lui. Qui a ensuite passé une 20aine d'années emprisonné en Floride. Général Noriega. Donald Trump se pose en gendarme du sous-continent sud-américain, qu'il considère comme sa zone de tutelle naturelle, en droite ligne historique avec la doctrine Monroe qu'on a évoquée tout à l'heure, et plus récemment avec cette nouvelle stratégie nationale de sécurité publiée en décembre par les États-Unis. Donc je voulais vous parler d'ailleurs, mais je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire, mais là on en parle, quoi. Mais il n'est en vérité qu'un pyromane, écrit Jonathan Boucher-Peterson, ouais, c'est ça. Un pyromane. À ce compte-là, comment dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine, la volonté d'annexion de Taïwan par la Chine de Xi Jinping, ou même la colonisation mise en œuvre par l'Israélien Netanyahou en Cisjordanie? On ne découvre pas à cette occasion la dimension prédatrice des ogres à la tête des empires de notre temps. Mais un cap a été franchi par la première puissance du monde qui renoue avec un impérialisme vorace s'essuyant les pieds sur le droit international. Voilà qui ne peut que rendre le monde plus instable et plus dangereux. S'autoproclamer président de la paix apparaît comme une cerise de grossièreté sur le gâteau que l'Amérique veut dévorer, en l'espèce le pétrole vénézuélien. Il ne s'agit pas de défendre le régime Maduro, mais la fin américaine ne justifie pas les moyens employés. C'est joliment écrit. la lutte contre le narcotrafic. Alors que pour les États-Unis, le principal péril en la matière est le fentanyl made in China, où le terrorisme ne sont pour le coup que des prétextes. Ce qui s'est passé ces dernières heures est grave, peut-être du même ordre de ce que George Bush Jr. avait entrepris en Irak, faisant chuter Saddam Hussein en basant cette action sur un mensonge. En s'attaquant au Venezuela, dont la manne pétrolière finance aussi le régime cubain, un dossier sur lequel tous les présidents américains sont cassés les dents depuis les années 60 malgré une forme de désescalade sous Obama, Trump mène aussi une croisade idéologique et comme souvent égotique, égotique de égo. Contre l'alliance bolivarienne qui depuis l'ère Chavez s'est construite en opposition aux États-Unis et dont le Nicaragua est le troisième acteur majeur. Dans cette croisade, une partie de l'entourage du président américain, à commencer par son secrétaire d'État Marco Rubio d'origine cubaine, a joué un rôle majeur pour pousser Trump à passer de la parole aux actes. De la possibilité d'une négociation à la concrétisation d'une intervention militaire qui a déjà fait son lot de victimes civiles. Tout cela est dangereux, les dénonciations se sont multipliées ces dernières heures, et il serait normal que cela conduise à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Encore une fois, il ne s'agit pas de voler au secours du régime autoritaire et corrompu mis en place cette dernière décennie par Nicolas Maduro, dont personne ne défend dans la presse française le régime de Maduro, hein, mais de défendre des principes. Une démocratie comme les États-Unis, qui nous a certes déjà habitués au pire, ne devrait pas faire cela. Dans le monde tel qu'il est, il est à la fois naïf et insuffisant de le dire, mais c'est plus que jamais indispensable. Voilà, petit édito, plutôt bien troussé, de Jonathan Boucher-Petersen dans Libé. Je vous lis et on enchaîne avec le suivant. Pendant que je m'hydrate. À Cuba, ils doivent pas être joyeux parce que c'est risqué pour eux aussi, dit Linéis. Ça n'est pas faux. Je vous lis. Pourquoi on appelle ça un billet? Oh, le billet, c'est un autre mot pour dire éditorial, en fait. Un billet, dans un mot un peu ancien pour dire papier écrit, quoi. Un billet, quelque chose d'assez court, en général. Un billet, c'est assez court. Alors, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, mais je peux risquer un début d'analyse sur... Il y a Bière pour Dieu qui intervient régulièrement sur cette chaîne, et c'est toujours intéressant ce que dit Bière. Il faudrait peut-être faire le deuil de « les États-Unis ne sont plus une démocratie ». En fait, démocratie, démos, c'est le pouvoir par le peuple, quoi. C'est en fait le pouvoir vient du peuple, parce que élection. A priori libre. Bon. Les États-Unis ont plein de défauts, voilà, mais a priori, les Américains ont le droit de vote et l'exercent librement et désignent le président qu'ils souhaitent. Voilà. Donc en fait, qualifier, mais là, peut-être que la définition est insuffisante, qualifier un régime aujourd'hui de démocratique, c'est parce que l'exercice du pouvoir est d'origine démocratique. Après, il y a des démocraties qui se comportent plus ou moins bien, la notion de bien, elle est quand même très relative. Voilà. Et rien n'empêche un président démocratiquement élu de se comporter mal. Voilà. La démocratie, est-ce un régime qui se comporte bien ou est-ce un régime dont l'origine du pouvoir est d'origine démocratique, vient du peuple ? Donc, ça dépend de la définition que vous voulez retenir, quoi. Ou est-ce les deux ? C'est ça la question. C'est pour ça que Jonathan Boucher-Patassène dit « Une démocratie ne devrait pas agir comme ça. » Et là, l'éditorialiste retient la première définition, donc démocratie, parce que le pouvoir de Trump vient du peuple, d'une élection libre et démocratique. Charles Samuel, une démocratie a beaucoup plus de facteurs que ça. Voilà, toi, tu es dans une autre définition de la démocratie. Tout dépend de la définition que tu prends de la démocratie. Moi, je n'impose aucune. aucune de ces définitions à vous, c'est à vous de choisir après. Merci Canopy. Merci Princesse Fiona. Merci Gogo. Article suivant. Moi je vous libère. Ah, oh, je devais vous libérer à 12h30. Attendez, il faut que je voie mon WhatsApp parce que j'ai laissé mon téléphone à la maison. J'ai dit à mon épouse de m'écrire sur WhatsApp pour le déjeuner dominical. Et je lui ai promis à 12h30 de cut le live pour aller. Attends, elle me dit. Attends, j'écris à mon épouse. Hein, excusez-moi. As-tu. Le restaurant. On parlait de sortir, peut-être manger ensemble. Aller choper les virus des autres gens. Ah, zut. J'ai perdu le truc. Les enfants ont bien dormi ce matin. À quelle heure? Oh là là, le clavier est déporté, j'écris mal. À quelle heure? Voilà. Attends, j'ai le son. On devrait entendre le. Si on entendait le son du WhatsApp, c'est mon épouse qui répond. Hein, vous me prévenez. Hein. Ok. Donc, hop. Hier, on est allé voir des lumières ensemble. Et j'aimerais vous montrer cette belle photo de nous quatre, mais je montre jamais mon épouse et mes enfants. Donc, je la ferme aussitôt. Voilà, parce que le problème, c'est que là, je suis en capture d'écran. Donc, si je me trompe de fenêtre. Ah, elle a répondu. Non, c'est un sub. Merci, Zorcraft. Donc n'hésitez pas à me prévenir hein, si vous entendez le bip du WhatsApp. Donc, j'accélère un petit peu. Merci d'être aussi nombreux ce matin, mais normalement à 12h30, je vais cut. Voilà. J'ai deux articles encore que je voulais vous montrer. Celui-ci du Monde est intéressant. L'opération américaine au Venezuela, vue par la presse américaine. Vous allez voir que la presse américaine, merci Zorcraft, elle est divisée. Les Américains, les médias américains sont divisés. Voilà, de nombreux éditorialistes américains. Merci Squadat69, merci. S'interroge sur la légalité de cette capture du président vénézuélien et les raisons invoquées par Donald Trump. Il pointe également les risques faits poser une telle intervention sur l'ordre mondial. L'intervention militaire surprise lancée par Trump a soulevé un grand nombre de questions dans la presse américaine. C'est en premier lieu celle de la légalité d'une telle opération au cœur d'un pays étranger qui a surgi. Nous savons que la politique belliciste de M. Trump est illégale, clame le New York Times, qui rappelle au passage les frappes meurtrières effectuées sans fondement juridique dans les Caraïbes sur les embarcations accusées sans preuve de participer au trafic de drogue. Je vous en parlais, c'est pas que Samuel Etienne qu'on parle, c'est la presse américaine elle-même qui le dénonce. Hein. Le président américain, dit New York Times, n'a toujours pas fourni d'explication cohérente à ses actions au Venezuela. La Constitution lui indique clairement la marche à suivre. Il doit consulter le Congrès. Sans l'approbation de ce dernier, ses actions contreviennent au droit américain, explique le journal qui qualifie l'intervention d'imprudente. C'est intéressant, notamment, je pense notamment aux gens dans le chat régulièrement qui viennent défendre les actions de Trump. C'est intéressant de voir que y a des médias américains qui sont vent debout contre sa politique quand même. Que Nicolas Maduro soit un monstre est une évidence, dit le Washington Post. Tout comme l'illégitimité de son gouvernement, qui a bafoué le consentement des gouvernés, mais le débat essentiel commence et ne se termine pas avec ces deux faits. La légalité de l'opération est bien moins évidente que ses justifications morales et pratiques. Le pouvoir de déclarer la guerre relève du Congrès, vous êtes plusieurs à l'avoir souligné depuis le début de ce live, hein, et le président doit obtenir l'autorisation du pouvoir législatif, estime USA Today. Un sentiment largement partagé par d'autres éditorialistes. L'administration Trump a pris remarquablement peu de précautions pour fournir des justifications cohérentes ou cadres juridiques à cette attaque. C'est intéressant parce que dans le chat, je disais donc qu'il y a des médias américains qui critiquent Trump. Et quelqu'un dans le chat qui s'appelle GST Dion qui dit « Bah oui, ça s'appelle la gauche !» Donc je viens d'apprendre que CNN, le Washington Post et New York Times sont la gauche américaine. Ce qui est clair, c'est que Trump cherche une fois de plus à tester les limites de son autorité présidentielle, dit CNN, et la tolérance des Américains à cet égard, mais cette fois-ci, il le fait sur une scène d'une ampleur sans précédent. L'histoire de ses abus de pouvoir est loin d'être terminée. L'autre aspect qui suscite le scepticisme, merci de Salonchita, des médias américains concerne les raisons officielles invoquées par la Maison-Blanche pour justifier son attaque ciblée. Juger Maduro et son épouse accusés de narcoterrorisme et d'importation de cocaïne aux États-Unis. Cet argument est particulièrement absurde dans le cas présent, étant donné que le Venezuela ne produit pas de manière significative de fentanyl, ni les autres drogues qui ont alimenté la récente épidémie de surdose aux États-Unis, et que la cocaïne qu'il produit est principalement destinée à l'Europe, estime le New York Times. Donc les accusations contre le Maduro narcotrafiquant, les médias américains, certains médias américains sont sceptiques. On va sûrement trouver des médias américains aussi qui valident, bien sûr. Merci Kuchovic. Dans le Washington Post, vous lisez aussi. Récemment, Trump a avancé un autre prétexte du coup que le narcotrafic. Pour justifier son action, il a écrit sur les réseaux sociaux qu'il souhaitait que le Venezuela restitue aux États-Unis d'Amérique tout le pétrole, les terres et autres biens qu'ils nous ont volés. C'est un mensonge, dit le Washington Post. Le Venezuela a nationalisé ses champs pétrolifères en 1976, mais de nombreux autres pays ont fait de même, notamment l'Arabie Saoudite avec la Russie. Cela laisse penser que l'objectif de Trump n'est pas d'apporter la liberté au Venezuela, mais plutôt d'obtenir l'accès à ses réserves de pétrole les plus importantes au monde. Je ne vous lis pas tout l'article. Merci Matmat. De nombreux journaux pointent aussi les effets qu'une telle intervention fait peser sur l'ordre mondial en agissant sur la moindre légitimité internationale. Sans l'autorité légale valable ni soutien national, Trump risque de donner raison au régime autoritaire de Chine, de Russie et d'ailleurs qui cherchent à dominer leurs voisins. L'administration Trump doit justifier son intervention au Venezuela sans recours à des catégories permettant à Poutine et Xi Jinping de donner une apparence de légalité à la chute par la force du régime voisin qui leur déplaise. Enfin, la presse américaine s'interroge sur la suite des événements au Venezuela alors que Trump dit que les États-Unis vont diriger le pays jusqu'à ce qu'il puisse assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Quel est l'après ? Quel est le plan pour l'après Maduro ? À supposer qu'il y ait un plan, s'interroge le Washington Post. Chute de l'article. S'il y a une leçon essentielle à tirer de la politique étrangère américaine du siècle dernier, c'est que tenter de renverser même le régime le plus déplorable au monde peut aggraver la situation. Les États-Unis ont passé 20 ans à tenter en vain d'instaurer un gouvernement stable en Afghanistan et ont remplacé une dictature en Libye par un État fracturé. À l'instar de George W. Bush après l'invasion de l'Irak, Trump a savouré son moment de triomphe samedi. Mais s'il y a une leçon à tirer de ces 25 dernières années, c'est qu'il est bien plus aisé de renverser des tyrans que de bâtir ensuite des sociétés stables et sûres. Washington Post. Ouais, il est 12h30. Je surveille. Parce que mon épouse, je n'ai pas mon téléphone. Si tu veux me prévenir pour le déjeuner, passe par WhatsApp, mais je n'ai pas d'infos pour l'instant. Bon, je me dépêche. Dernier article, le timing est plutôt OK. Pardon, je vais vous lâcher un peu plus tôt. Je pense qu'on aurait pu continuer à parler de Maduro et des États-Unis pendant de longues heures. C'est un article du Monde aussi sur les conséquences pour la Russie. L'opération américaine au Venezuela, un événement à double tranchant pour Poutine. Ça, c'est intéressant. Les conséquences pour la Russie. La conséquence pour l'Ukraine. La capture de président Maduro par les States affaiblit les alliés de l'Ukraine, qui se veulent la défenseur de la démocratie et du droit international. Mais c'est aussi un revers géopolitique pour Moscou qui perd un partenaire de premier plan parce que le Venezuela était un allié de la Russie et voit ses revenus pétroliers menacés. Hyper intéressant. Alors, Zelensky, le président ukrainien, en a parlé, vite fait. Voilà. S'il est possible de traiter avec les dictateurs de façon aussi facilement, alors les États-Unis d'Amérique savent ce qu'il faut faire ensuite. Un petit trait d'humour de M. Zelensky en se demandant si les États-Unis vont capturer Poutine ou pas. Sur le fond, cette opération éclair des États-Unis pourrait pardon, je lis trop vite. Sur le fond, cette opération éclair des États-Unis pourrait contenter Moscou. À des fins lucratives, le droit international n'a-t-il pas été bafoué par la première puissance mondiale, comme l'a fait la Russie avec son invasion en Ukraine? En prétendant mettre fin aux souffrances du peuple vénézuélien, en assurant vouloir protéger les Américains du fléau de la drogue, les États-Unis semblent en réalité convoiter la manne pétrolière de Caracas. L'Europe, alliée de Kiev, qui n'a guère condamné l'intervention américaine, peut-elle encore donner des leçons de démocratie à Poutine? Moscou s'est empressé de souligner les contradictions de cet Occident supposé pétri d'humanisme et de respect du droit international. Mais, il y a un mais, la Russie a été prise par surprise. Maduro était un partenaire de premier plan de Poutine en Amérique latine. L'éliminer est clairement un coup porté à Poutine. Cela montre que ses défenses aériennes, parce que je crois qu'il y avait des défenses fournies par la Russie au Venezuela, que ses défenses aériennes installées autour de la capitale vénézuélienne et ses accords politiques, puisque Moscou et Caracas ont récemment signé un accord de partenariat stratégique, sont inutiles face à la puissance américaine. Et, ça n'est pas tout, en intervenant au Venezuela, Washington touche un des points sensibles de Moscou, ses revenus pétroliers. Les États-Unis ont pour ambition d'y revivifier les installations pétrolières d'Ekati du Venezuela. Cette captation de la richesse pétrolière vénézuélienne et la chute prévisible des cours du fait d'une offre plus abondante pourraient faire durement souffrir l'économie russe, déjà malmenée par sa guerre d'attrition en Ukraine et les sanctions internationales. Ok. Bon, on va voir. Bon, les amis, quelque chose me dit qu'on va se pencher sur les conséquences de cette opération militaire en américaine durant de longs mois avec les médias que vous consommez d'habitude, peut-être aussi dans cette matinée, Étienne. Petit stream, pardon, hein, de 2h30 ce matin. Il est rare de consacrer une matinée Étienne à un seul sujet unique comme ça. On l'a fait très rarement en 5 ans. On l'a fait quelques fois, notamment sur des histoires de politique. Mais c'était exceptionnel. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'est fou. Voilà. Ça donne envie de faire des revues de presse le dimanche matin. Mon épouse va être très contente maintenant que j'en ai créé une aussi le samedi. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci de la qualité de ce que j'ai lu dans le chat. Parfois on n'est pas d'accord, parfois on s'énerve, mais c'est la loi du débat. Ça me choque pas, je trouve ça très très bien. Et c'était cool de vous lire, vraiment. Voilà. Je vais envoyer le contenu de cette revue de presse à mon ami Vincent qui poste ensuite tout ça en podcast audio, puisque c'est une de mes joies de cette rentrée depuis le mois de septembre. On met cette revue de presse également en podcast audio, ce qui était demandé par la communauté depuis des années déjà. Et donc, quelques heures après, en général, le revue de presse du matin, elle est postée vers 15-16 heures en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Et vous êtes super nombreux à l'écouter là-bas, ça me fait super plaisir. Et donc, je pense que cette revue de presse sera postée aux 15-16 heures ou en fin de journée, parce qu'on est dimanche quand même, par Vincent quand il le pourra. Je vais lui envoyer tout ça tout de suite. Merci les amis, c'est dimanche. On se retrouve bien sûr ce soir pour un stream de gaming. Il n'y aura pas de Simplay. Il faut que je cale les invités pour le Simplay des prochaines semaines parce que... Là, je ne l'ai pas fait, je suis un petit peu en retard sur le travail de programmation, mais on se retrouve ce soir, ça c'est sûr. Je pense pour du God of War. J'ai découvert le jeu il y a quelques jours grâce à vous. Je tombe amoureux de ce jeu qui est complètement fou, qui est incroyable. Donc peut-être un troisième stream God of War ce soir. Merci pour ce matin. On va faire un raid, bien sûr, un très gros raid, hein, parce que vous êtes super nombreux. Qui est en live actuellement? Ah, vous êtes vraiment super nombreux, c'est fou, quoi. Ah, ouais, ok. Ouais. Je regarde, hein. Qui est en live? Ouais, en vrai, ouais, ça fait longtemps, ouais. En vrai, ouais, ça fait longtemps qu'on a. Écoute, ça fait très longtemps qu'on a pas. Enfin, ça fait long. Pas si longtemps que ça, je pense qu'on a. Vous êtes plus. Ouais, il y a Marie, il y a Enjoy Phoenix qui est en live, il y a. Mais je vois qu'il y a Anae aussi, que j'ai pas raid depuis longtemps, je pense. Elle est sur un très beau live, puisqu'on est sur la suite de The Last of Us Part 2, remasterisé. Ça peut être sympa, en vrai, c'est une très bonne idée. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir Anae. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Je vous souhaite un bon dimanche, bien chill, bien tranquille, avec ceux que vous aimez. J'espère que c'est le cas. Oubliez un petit peu les désordres du monde. C'est bien, c'est très bien. Bravo à vous de suivre l'actualité, de s'interroger sur ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Voilà, c'est bien d'être un citoyen éclairé. C'est bien cet effort d'information dont que vous venez de faire en passant ce moment avec moi. Mais n'oubliez pas que l'essentiel, c'est vous. C'est votre vie et ce qui se passe autour de vous. Ouais, pensez d'abord à vous. Allez, c'est parti, on va voir Anaé et je vous dis à ce soir des bisous. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime fort. Ciao, ciao. Ça part dans 5 secondes. Merci Captain Pesto. Merci Matmat. Merci pour tous vos gentils messages. À ce soir pour God of War. J'adore ce jeu. Des bisous.
Pas obligé d'aller dans l'espace, et pourtant ils l'ont.